Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. Avec nous ce soir, du beau monde. Ça va débattre, ça va partir en clash. Ça a déjà commencé en off et là, ça va continuer. On va continuer, on est déjà dans le vif du sujet. Comment ça va, Maxence ?
Ça va très bien, toi, Eladji ?
Ça va, super. Et toi, comment vas-tu, Fantôme, alias Samba ?
Ça va et toi, Eladji ?
Ça va, super. Ibrahima ?
Salut Eladj, ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, ça va.
Les cours, ça se passe ?
Ouais, ça se passe tranquille.
Ça va, tu nous rends visite de temps en temps ?
Ouais, on va essayer d'être plus présent, mais sinon ça va, ça se passe.
Ok. Et avec nous, un nouveau chroniqueur, Kevin, comment ça va ?
Ça va, super. Ça va. Et toi, tu vas bien ?
Ça va, super. Ok. Prêt pour les prochaines G-séances ?
Prêt, toujours prêt, même si ce que j'entends en off, ça me plaît pas trop, mais je suis prêt.
Ok. On va commencer tout de suite, on va dérouler le sommaire avec en Ligue 1, avec une équipe de Marseille, pour le plaisir de Maxence, qui a déroulé sur la lanterne rouge Montpellier-Rennes 5-0, qui a coûté la place à Der Zakarian de suite, juste après le match. Hein, le président Achaud, qui voulait attendre déjà le match face à Toulouse, mais qui n'a pas pu retenir ce qu'il avait dans le cœur. Et il l'a exprimé que fallait que ça bouge dès maintenant. Et voilà, c'était pour mettre un bon coup de pression. Voilà, du coup, Marseille qui revient à 3 points de Monaco et du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui sont apposés 4-2. Et Monaco qui perdent la place de leader. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que t'en penses, Maxence ?
Moi, je pense, concernant l'OM, que c'est une bonne chose. C'est une bonne reprise de confiance pour des joueurs comme Greenwood, qui était dans une mauvaise passe. Et Liwayi aussi, qui se met en confiance avec un but dès la première minute de jeu. Ça a été une première pour Rabiot aussi, première en tant que titulaire. Donc, c'est une bonne chose. Après, il n'y a pas d'enseignement à tirer au-delà de ça pour moi. L'équipe de Montpellier, c'était vraiment trop faible pour qu'on puisse tirer quelconque conclusion. Après, à une semaine du classique, c'est une bonne chose de se mettre en confiance.
C'est sûr qu'à une semaine du classico, de toute façon, en plus, ils ont une semaine de repos. Ils ne jouent pas les compétitions européennes. Ça va leur faire du bien et on espère pour eux qu'ils seront en pleine forme le week-end prochain. Et toi, Kevin ?
Moi, ce que j'en pense, c'est que ça relève un peu le niveau de la Ligue 1. C'est bien d'avoir un peu de suspense pour les prochaines échéances. Et ça me fait plaisir de voir que le Paris Saint-Germain ne s'échappe pas en tête comme les saisons précédentes. Donc voir des équipes qui titillent un peu cette première place, ça me fait aimer le foot encore plus.
La Ligue 1, en tout cas, du moins.
La Ligue 1. Parce que on se plaint souvent que le PSG est souvent trop seul à jouer la première place. Donc quand on voit des équipes s'accrocher comme Marseille et Monaco cette année, et des équipes comme Lille, etc., qui suivent en bas, moi je trouve que c'est intéressant pour la suite.
Ok, et toi Ibrahima, comment t'as vu ce week-end de Ligue 1 ? Comment t'as ressenti tout ça ? Et là, Marseille, notamment face à Montpellier.
Oui, bah par rapport à ce week-end de Ligue 1, ça va. Déjà, j'ai vu quelques belles affiches. Et je tenais à souligner même que le niveau de jeu cette année en Ligue 1, c'est pas trop mal. Franchement, il y a des matchs où je prends pas mal de plaisir à regarder, notamment il y a une équipe Lens par exemple, ça joue plutôt pas mal, même Reims, Monaco aussi, il y a plein de petites équipes comme ça qui me surprennent un peu par rapport à la saison passée. Maintenant par rapport à l'Olympique de Marseille, bah, c'était une belle victoire, après c'était vrai que l'adversaire était vraiment très faible, et pour vous dire même je m'amusais un petit peu à savoir quel entraîneur on allait licencier en premier cette saison. J'avais misé sur Darzakarian et bon, malheureusement pour lui, je me suis pas trompé, mais sinon, ouais, très belle victoire de l'Olympique de Marseille. Un bon match de. J'ai beaucoup aimé Greenwood, je l'ai trouvé très bon. C'est vrai que les deux matchs précédents face à Angers, notamment, je ne l'avais pas trouvé phénoménal, mais là, on sent qu'il est revenu en pleine forme. Et oui, bah, c'est bon pour le Classico et on espère déjà qu'on verra un beau match de football entre ces deux équipes.
On espère, en tout cas Ibrahima qui suit la Ligue 1, ça va faire plaisir à un certain Stéphane, à qui on passe le coucou d'ailleurs. Du coup, Samba, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la performance des Marseillais face aux Montpellierens?
Comme l'a évoqué Maxence, bah, pas d'enseignement à tirer. Après, on voit que Marseille, ils avaient à cœur de gagner leur match. Et après, en ce qui concerne les autres matchs de Ligue 1 concernant Monaco et Lille, on voit que c'est une petite contre-performance de Monaco. Après, ils auraient pu, entre guillemets, gagner, mais ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions. Et Paris est sur sa continuité. Hein.
Marseille qui enchaîne avec Monaco. Monaco avec un carton rouge qui ont fait quand même une belle performance face aux Lillois à domicile, hein, qui les ont dominés même à 10, mais qui n'ont pas su concrétiser et qui butent et qui perdent la place de leadership. Qu'est-ce que t'en penses, Maxence ?
Je pense que ça va être c'est des aléas d'une saison. Monaco, ils font un super début de saison. Ils n'avaient pas tenu ce rythme-là pendant toute la saison. Ils ne faisaient que gagner. Là, c'est une belle équipe de Lille en face. Un Chevalier qui fait une parade extraordinaire dans le temps additionnel en toute fin de match. Il n'y a pas, pas d'inquiétude pour Monaco. On est sur une grosse semaine pour eux avec un rendez-vous en Ligue des Champions dont on reparlera juste après. Et ils restent leader à égalité avec le Paris Saint-Germain. Donc, pas d'enseignement. Et Marseille revient à 3 points. Donc, c'est cool.
C'est cool pour toi surtout, qui est supporter de Marseille, hein, ça se voit, t'as la banane, hein, dès qu'on t'a dit, voilà, t'as dit, je suis pas sûr d'être lundi, voilà, avec la performance de Marseille. C'est vrai qu'ils ont mis une belle manita en tout cas, et tous les joueurs ont participé offensivement, hein, même Harit, qui était un peu en dessous ces derniers temps, il a su rehausser le niveau. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Kevin, de Monaco, qui bute face à Lille?
Un match où deux équipes se sont neutralisées, tu vois, donc après... Lille, c'est pas une petite équipe de Ligue 1. Ça allait être compliqué déjà. Et ils n'ont pas su finaliser les occasions qu'ils avaient eues. Comme on dit, le rouge, ça ne les a pas aidés. Mais comme ils disent, c'est les aléas d'une saison. Et c'est ça qui est compliqué, surtout pour Lille et Monaco, qui auront des échéances en Ligue des Champions cette saison. Donc il faudra à gérer. C'est là que le banc est très important. Donc à voir pour la suite.
Okay. Et toi, Samba?
Comme je l'ai évoqué précédemment, en gros, concernant le match entre Lille et Monaco, pour être plus précis, en gros, après, c'est un bon point pour Lille à l'extérieur. Après, sachant que là, ils ont leur prochain match contre l'Atlético Madrid. Donc, on voit que ça va être un match un peu, comment dire, un peu difficile.
C'est tout. Ok, et toi, Ibrahima?
Déjà, le match n'était pas très beau à voir. Pour ceux qui l'ont vu, honnêtement, c'était pas du très beau football. Après, par rapport à Monaco, bon, j'ai trouvé quand même qu'ils auraient pu et dû même gagner ce match. Ils ont eu des occasions assez franches. Après, par rapport à Lille, c'est une équipe que je trouve assez irrégulière quand même. Hein. On sait plus trop sur quel pied danser avec cette équipe. On voit qu'ils sont capables de faire des matchs exceptionnels, notamment face au Real Madrid en Ligue des Champions. Mais qu'après, ils sont capables de faire des matchs où ils passent totalement au travers, notamment là contre Monaco. Je me souviens de la performance contre Saint-Etienne aussi en championnat où c'était très mauvais.
Celle-là était terrible.
Ouais. Elle était horrible celle-ci, donc il va falloir avoir un peu plus de régularité du côté lillois pour pouvoir faire une bonne saison, parce que sinon ça risque d'être compliqué.
Mais c'est souvent le problème des équipes de Bruno Genesio, je trouve. Déjà à Lyon,
ouais,
c'était
vrai.
Un peu le cas.
Ouais,
où,
Lyon, c'était...
Ils avaient tapé City en Ligue des Champions, ils faisaient souvent des grosses perfs sur les gros matchs. Ça leur arrivait de battre Paris, de battre l'OM, etc. Mais sur les petits matchs, ils se faisaient souvent piéger sur des contenus très très faibles face à des équipes de moindre qualité, on va dire.
Même avec le Stade Rennais aussi, c'était pareil. On voyait
exactement.
En Europa League, ils pouvaient perdre contre une équipe de seconde zone. C'est assez incompréhensible.
Le président qui disait déjà, qui tirait la sonnette d'alarme, hein, juste après le match contre Saint-Etienne, hein, qui a fait une... qui a été, même ça a été un peu houleux dans le vestiaire, et juste après encore en conférence de presse, où son équipe, il les voyait, voilà, même avec tout le respect qu'il avait pour les Verts, il disait qu'on ne peut pas perdre, surtout de cette façon, contre une équipe de Saint-Etienne avec l'équipe qu'on a, quoi. Mais le message est passé, puisque juste après, ils ont battu le Havre, ils ont battu le Real Madrid, ils ont enchaîné avec Toulouse, et là, ils jouent contre Monaco à Louis II, c'est pas si facile, même si à 10 contre 11, je pense qu'ils doivent prendre les devants, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais ça reste quand même une belle performance, un bon point pris. Tu signes pour un bon point pris à Louis II, en voyant ce que Monaco fait depuis le début de saison. Je pense que ça tient la route. Alors, on peut enchaîner avec le Paris Saint-Germain qui se sont imposés face à Strasbourg. 4-2. Hein. Paris Saint-Germain, oui, qui met des buts, mais qui encaisse aussi défensivement. Ça reste problématique, même si on sait qu'il a fait tourner, que Luis Enrique a fait tourner l'effectif défensivement. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin?
Moi, j'en pense que, comme tu dis, offensivement, on sait que Paris a toujours des facilités à combiner, à se procurer des occasions, surtout en Ligue 1, mais ils arrivent rarement à faire de clean sheet. Et c'est ce qu'on dit depuis déjà des années. Le Paris Saint-Germain, quand tu es en Ligue 1, ils arrivent, aux joueurs et les qualités individuelles des joueurs, à passer outre, c'est-à-dire prendre des buts et quand même gagner. Mais dans des matchs un peu plus serrés, où ils n'arrivent pas à marquer, on l'a vu contre Arsenal, ils n'arrivent pas à ne pas encaisser. Et ça pose souvent problème, et d'autant plus que le problème n'est pas résolu, quoi. Et on se demande comment le PSG pourra faire face à des équipes avec des grosses attaques en Ligue des Champions, le Bayern, le Real, etc. Ce sera compliqué. Donc à régler, à voir comment Luis Enrique va régler ce problème-là, mais c'est inquiétant pour le Paris Saint-Germain en tout cas.
C'est entendu. Et toi, Ibrahima?
C'est vrai que j'ai une plutôt bonne performance du Paris Saint-Germain, mais comme vous l'avez dit, ils encaissent beaucoup trop de buts. Après, j'ai beaucoup aimé, moi, personnellement, la performance de Barcola. Je l'ai trouvé très bon sur ce match. Et puis, le milieu de terrain aussi, c'était pas trop mal, mais après, défensivement, il y a un problème. Ou limite, je pense que c'est un problème de concentration, même, parce qu'ils encaissent souvent les buts dans les 20 dernières minutes. Je sais pas si vous... Quand vous analysez bien, même face au Stade Rennais, c'était pareil. Donc, va falloir rester concentré sur 90 minutes. On sait que c'est pas facile, mais va falloir le faire si on veut aller loin en Ligue des Champions. Et puis aussi, oui, après, comme il a dit, c'était une équipe B un petit peu. Le Paris Saint-Germain, là où on les attend, c'est mardi. Hein. On va pas se mentir, face à Eindhoven, ce sera pas simple. Donc, ça reste 3 points à prendre. Et surtout, ça, on se remet à égalité de points avec l'AS Monaco. Parce que je sens que cette saison, ça va pas être simple en championnat. Donc, c'est toujours 3 points de prix. Et va falloir avoir plus de clean sheet pour pouvoir être... le plus haut possible en Ligue des Champions.
Ça va pas être simple, surtout en vue des calendriers de chacun, hein, parce que faut rappeler aussi que Monaco aussi joue la Ligue des Champions. On va dire que c'est plus Marseille qui sont favorisés, mais Marseille commence à perdre des points, c'est ce qui peut leur causer problème. Et là, avec le Classico qui va arriver, s'ils le perdent, ils se font vraiment distancer. Qu'est-ce que toi t'en penses de la performance des Parisiens
Sur la performance du PSG, je pense que la plupart des choses ont été dites. Moi, je voulais mettre l'accent sur Strasbourg. J'ai bien aimé leur manière d'entamer le match et puis leur manière de prendre le match. On a trop vu d'équipes qui venaient au Parc des Princes ces dernières années avec leurs deux lignes de 4, voire deux lignes de 5, en attendant que ça se passe et en se disant si on en prend moins de 3, ça sera cool. Strasbourg, depuis le début de saison, j'aime beaucoup comment ils abordent les matchs. Ils avaient été à Lyon perdre 4-3 en ayant mené 3-1. Mais c'est une équipe qui est protagoniste, qui tente des choses. Donc là, ils sont allés au parc, ils ont tenté des choses, ils ont un peu ouvert. Donc ils en ont pris 4, mais ils en ont mis 2. Et puis, s'ils jouent tous les matchs de l'année comme ça, ils feront de belles choses, comme ils ont déjà fait face à l'OM notamment, face à Lyon. Et moi, c'est une équipe que j'aime suivre avec leur coach Rossignol. Il apporte, à mon avis, un coup de frais sur la Ligue 1. Et c'est ce genre d'équipe dont on a besoin, les équipes second couteau. On a besoin qu'ils viennent challenger les gros sur un match et qu'elles puissent... créer des surprises qui n'étaient pas possibles avant quand on avait les vieux coachs à la française qui mettaient leur 5-4-1 sur tous les grands matchs au Parc des Princes, au Vélodrome ou au Groupama Stadium à Lyon.
Et aussi, il faut aussi souligner avec Strasbourg que c'est une équipe hyper jeune aussi. Ouais. C'est une équipe très jeune. Je pense, j'ai pas la moyenne d'âge en tête, mais je pense que personne n'a plus de 30 ans sur le terrain, voire même en dessous. Donc...
Ouais, voire même en dessous. Je crois qu'il y avait un match au début de saison, ils avaient juste leur gardien qui était,
ouais, il me
qui était vieux, et après il n'y avait plus personne au-dessus de 26 ans ou quelque chose comme ça.
Ouais, donc c'est une équipe très jeune. Franchement, ils me surprennent pas mal en ce début de saison. On l'a notamment vu face à l'Olympique de Marseille où ils ont su s'imposer. Donc...
Des joueurs à fort potentiel, notamment avec Blouko, le Rachat, les mecs, à mon avis, ils pensent. Aller jouer à Chelsea ensuite. Chelsea. Mais ouais, c'est intéressant, ça court beaucoup, c'est très, très généreux dans l'effort, ça presse haut, et c'est plutôt sympa à voir. Donc moi, quand il y a Strasbourg le week-end, j'allume ma télé.
C'est vrai que Strasbourg, depuis le début de saison, il propose du beau jeu, hein, il propose du beau jeu, du jeu ouvert, c'est ce qu'on veut voir, du spectacle. Hein. Moi, c'est exactement, quand je regarde le football, c'est pour le spectacle, et là, il nous en donne, et on espère que ça va continuer. On peut enchaîner avec Lyon aussi, face au Havre, hein, Lyon qui revient très bien, même avec deux clean sheets, hein, ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Deux clean sheets, 4-0 face au Havre, un match sérieux avec un Cherki qui est, maintenant on peut le dire, hein, Cherki il est au niveau, hein, il est au niveau de où est-ce qu'on l'attend, et il délivre des caviars, même on a vu une action coup du foulard où ça a failli rentrer, c'était... Non, moi, j'aime le beau jeu, Samba, excuse-moi, mais j'aime le beau football, voilà, je suis pas supporter de Lyon, tu vois, mais j'aime voir le beau football, et là, c'est ce qui me procure quand je le regarde, il me donne du plaisir, voilà, ça me fait rappeler certains joueurs très très forts techniquement. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Lyon, dernièrement
Ouais, c'est vrai, comme tu le soulignes, par rapport à Cherki, c'est vrai qu'on se plaint souvent que le football est devenu très robotisé, qu'on a de moins en moins de joueurs... de moins en moins de joueurs créatifs, qui jouent de manière spontanée. C'est beaucoup du schéma tactique, beaucoup du respect de consignes. Et là, de voir un joueur avec une telle liberté, ça nous fait plaisir, tu vois. Et d'autant plus que ça prouve qu'on peut être libre, on peut être créatif et apporter à son équipe des buts, des passes décisives. Et sur ça, c'est très encourageant pour le football, pour la direction que prend le football. Et pour ce qui est de Lyon, c'est vrai que tout à l'heure, il parlait de Lille, mais Lyon, j'ai l'impression qu'aussi, c'est pareil. On voit que des fois, ils font des grosses performances et des fois, ils se font piéger en Ligue 1. Et dans la course aux points, ça leur cause du tort souvent. Donc, à voir s'ils vont réussir à enchaîner. On rappelle qu'eux aussi ont des échéances en Europe. Ouais. Donc, à voir s'ils vont réussir à enchaîner et à rester concentrés dans ces matchs-là, parce que c'est sur ces matchs-là qu'on gagne des championnats.
Exactement. Et toi, Samba ?
Bon, après, on voit que Lyon, ils sont sur 5 victoires de suite. Ils remontent, dans le haut du tableau. Ouais. Après, concernant leur prestation, ils ont fait une prestation très costaud. Surtout, mention spéciale à Malik Fofana. Franchement, je m'aperçois qu'en fait, au fur et à mesure, il commence à s'affirmer dans l'effectif lyonnais. Après... quelques points, mais j'ai remarqué que Lyon, en fait, ils ont des bons joueurs. Franchement, ils ont des bons joueurs, ils ont un bon effectif, même sur le banc. Sur le banc, y a Benrahma, après Zaha, mais lui, il est irrégulier. Mais je me dis que, franchement, si ils restent concentrés, s'ils sont réguliers, ils peuvent faire quelque chose en Ligue 1.
Miko Tadze aussi, pour le banc.
Ouais, mais...
Irrégulier, mais ça en fait partie.
Vu qu'il vient d'arriver, vu qu'il est de Lyon, à mon avis aussi, peut-être il a la pression de jouer dans le club de sa ville.
Pour Miko Tadze, voilà. Ça me fait rappeler à Elim Ndiaye, moi.
Ouais, exactement. Elim Ndiaye, ouais. L'an dernier. Il a réalisé son rêve et tout. Voilà. C'est dur.
T'as vu, là, il se relance très bien.
À Everton.
Moi, ce que j'aime, c'est ça, en fait. Un joueur qui s'épanouit. Et quand ils arrivent dans leur ville natale, en tout cas, souvent en France en plus, il y a un problème, il y a un blocage.
Est-ce qu'on leur a donné le temps? Tu vois, c'est ça son problème. Lui, il est arrivé une saison, il est reparti.
C'est vrai. Tu vois, ils lui ont pas donné le temps, c'est vrai.
C'est vrai, peut-être que Miko Tadze, il aura besoin de 6 mois pour se mettre bien, et puis qu'à partir de janvier-février, la machine va s'en
sortir. Il faut pas oublier qu'il y a la casette aussi, on l'a laissé. Au début, c'était pas trop ça, et là, il commence à performer.
C'est sûr, et après moi, Ndiaye, l'année dernière, je le trouvais pas mauvais.
Moi non plus.
C'était du manque de confiance. Après,
il avait la pression.
Quand c'est rentré, il a apporté quelque chose.
Tu sentais qu'il avait du ballon, c'était les derniers gestes, il avait du mal.
Le problème, c'est que Marseille, quand ils recrutent des joueurs, c'est qu'ils veulent tout de suite.
Ouais.
Voilà, faut nous donner tout de suite. Après, sinon, l'année prochaine, on change tout. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Après, sur la plupart des entraîneurs qui sont arrivés à Marseille, en gros, les entraîneurs, ils ont eu des bons résultats rapidement. Donc, ça veut dire que le public, ils se sont habitués à cela. Et là, avec Deserbi, c'est... Bon,
je vois pas quel. Non, mais Deserbi, il est arrivé, il a eu que des. Mais t'as vu Deserbi quand il est arrivé? Comment on l'a appelé? On l'a appelé Maître Capello. Non, mais sérieusement, il est arrivé, il a enchaîné 2-3 victoires, 5-0, 4-0 du jeu, etc. En plus de ça, il nous dit qu'il est même pas au début de ce qu'il veut faire.
Moi, je parle pas de Deserbi.
Non, mais en gros, que Deserbi, il a réussi aussi ses débuts.
Ouais, mais c'est pas comme Tudor. Tudor, il était au début, tout le monde était contre lui. Mais il a eu des résultats rapidement.
Il fait 6 sur 6.
Franchement, il a eu des résultats rapidement.
Le contexte de l'arrivée n'est pas le même.
Ouais, c'est vrai.
Dans le sens où Tudor, il y avait une grosse appréhension, voire une hostilité à son arrivée.
Ouais.
Alors que Deserbi, il arrivait plus en détente.
Ouais, ouais.
Donc il y avait.
En sauveur aussi.
Ouais, il arrive en sauveur.
Il arrive en sauveur, faut le dire.
Ouais, mais donc les gens, inconsciemment, ils ont été un peu plus patients.
Il y a eu quand même des résultats tout de suite.
Après Marseille, ça va vite. Tu montes vite, mais ça descend très vite aussi. Donc, suffit de 2 défaites de suite ou suffit de 2 accrochages en Ligue 1 et ça peut vite...
Une embrouille dans le vestiaire.
Ouais, ouais, ça peut vite...
Déjà, si t'en prends 3 dimanche, déjà, à mon avis, ça va commencer à se tendre un petit peu.
Ouais, ouais, ouais. Ce sera son gros défi déjà dimanche.
Ouais, dimanche, je pense que c'est son gros défi, mais on verra bien. On en reparlera juste après. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de la performance de Lyon, Ibrahima?
Bah, j'ai une performance plutôt solide. Après, encore une fois, avec un adversaire assez faible. Hein. Franchement, Le Havre, j'ai été déçu. Je pensais qu'ils allaient proposer mieux que ça, quand même.
Moi aussi.
Mais, très déçu. Après, je sais qu'il y a pas mal de blessés quand même.
Mais le Havre, il y a peu de joueurs de qualité quand même.
Ouais, c'est... le maintien, ça va être compliqué cette année quand même.
Ils n'ont pas beaucoup de fonds.
Sûrement après, ça les quand je vois qu'on fait rentrer Andrayou pour essayer de sauver les meubles.
Mais autant, tu vois Montpellier, tu vois Saint-Etienne, t'arrives à retrouver 3-4 joueurs de qualité. Le Havre, Targaline au milieu, qui est un bon joueur, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Offensivement,
au péril, il n'est pas mauvais aussi.
Offensivement, c'est compliqué.
Sinon, c'est pas facile. La saison va être longue.
Pour gratter des points en Ligue 1, c'est vrai que c'est juste comme effectif.
Ouais, ça va être très juste. Mais maintenant, pour revenir sur le match face à Lyon, belle performance des Lyonnais. Hein. Il y a un joueur où j'étais pas mal sceptique, franchement. Je l'ai pas mal critiqué, c'est Ryan Cherki. Et ces temps-ci, franchement, il m'impressionne. Il m'impressionne. Je savais qu'il avait du talent et qu'il était capable de faire ce genre de gestes, mais je trouvais qu'il courait pas assez sur le terrain et au niveau des efforts fournis, je trouvais que c'était trop limité pour pouvoir prétendre jouer au très haut niveau. Mais là, ces temps-ci, on voit qu'il revient en forme et je lui souhaite d'avoir toute une saison comme ça et pourquoi pas toucher les sommets avec l'Olympique Lyonnais ou ailleurs ou même une sélection en A parce que franchement, techniquement, c'est très très bon et des joueurs comme ça, il y en a plus beaucoup. Donc.
Après, pour revenir à Lyon, moi je pense qu'il faut féliciter quand même Pierre Sage par rapport à son travail. On voit qu'il y a du boulot, on voit que ça bosse. C'est pas une équipe qui arrive et qui sait pas trop ce qu'elle va faire. Et puis quand, au lendemain de la défaite contre l'OM à 11 contre 10 pendant tout le match, on a un vestiaire et une équipe qui est la tête dans le seau après ce match-là. Et il a réussi à les remobiliser d'abord via l'Europe, avec les victoires face aux Rangers, à l'Olympiakos, et ensuite en Ligue 1, en trouvant justement ces hommes forts qui ne fait plus bouger maintenant. On voit que Cherki, ça joue quasiment tout le temps. Fofana, pareil, Lacazette devant. Il a trouvé un peu son ossature. Verretou au milieu, il a trouvé ses hommes et donc je pense qu'il faut le féliciter pour ça parce qu'il était un peu perdu au début. Il y avait du Zaha, il y avait du Benrahma, il y avait du Orban, il y avait du Mikotadze et c'était un bordel, il y avait trop de joueurs.
Parce que quand tu les faisais jouer aussi, ils performaient. Hein.
Ouais, et puis personne ne performait vraiment en fait.
Oui, mais Orban, moi.
Ouais, Orban, il était pas mal.
Je comprends pas comment Cherki, Orban s'est retrouvé.
C'était le bazar total. Ouais, et là, il a réussi à recadrer un peu les choses. On voit qu'il en a viré 2 ou 3, Zaha c'est dehors et je pense qu'il ne reverra plus beaucoup le terrain en Ligue 1 du moins. Peut-être quand ça fera tourner un peu. Là il est même hors groupe carrément Zaha.
Ouais,
mais,
à cause de son comportement.
Ouais. Mais voilà, je pense que c'est une bonne chose. Il a su sécuriser Péri à la place de Lopez malgré les pressions qu'il y avait en interne, etc. On connaît un peu à Lyon. Donc là le fait d'avoir un gardien de très haut niveau et des offensives qui sont un peu plus en confiance et qui jouent pas leur tête à chaque match, on sent que c'est beaucoup mieux du côté de l'OL.
Et puis surtout, il y a la blessure d'un joueur qui l'arrange un petit peu ce temps-ci, c'est Matic, parce que ça devenait très compliqué. Ça me fait mal de dire ça, hein, parce que c'est vraiment un joueur que j'aimais beaucoup, mais ces temps-ci à Lyon, ça devenait compliqué. Et Kakra a fait un très bon match ce week-end, donc ça m'étonnerait que Matic retrouve le terrain d'aussitôt. Surtout qu'on sait que quand les coachs gagnent, ils ont du mal à changer l'effectif, ce qui est totalement logique. Je ne sais pas si Matic retrouvera le terrain d'aussitôt côté lyonnais.
Merci en tout cas pour vos analyses. On rappelle le classement. Paris Saint-Germain, premier ex aequo avec Monaco. Monaco, deuxième. Troisième, l'Olympique de Marseille à 17 points. Quatrième, Lille, ex aequo avec Lens et avec Reims aussi, hein, avec une différence de but entre les trois. Et Lyon, qui sont juste en dessous à 13 points, qui sont à 4 points du podium. Voilà, et en bas de tableau, le Havre avec 6 points, Angers avec 4 points, à égalité avec Montpellier avec 4 points. Voilà. Quelque chose à dire pour les matchs à venir, hein, les matchs à venir, le classico.
Gros choc Lille-Lens.
Ouais.
Ça arrive bientôt.
Ça,
donc
ça arrive incessamment sous peu. On peut dire ça.
Je sais pas
ça.
Si c'est peut-être pas la prochaine journée d'ailleurs.
S'il me semble.
Vérifier.
Je crois que c'est ce week-end, ouais. Je crois que c'est en même temps que le Classico.
Gros derby du Nord. Ça va être donc, intéressant.
Mm. Ouais. Pour la 9e journée, on aura un Lens-Lyon. Voilà. Et ça va jouer à Lens. Lens-Lille. Lens-Lille, oui, ça va jouer Lens-Lille. On aura aussi Lyon-Auxerre. Bon, voilà. Nice-Monaco, c'est pas mal aussi.
Ouais, c'est un bon derby aussi. Ouais.
Monaco à l'extérieur.
On a des bons matchs ce week-end.
Ouais.
Pas évident pour les équipes qui vont sortir de Ligue des Champions. Lille-Monaco, ouais. Enchaîner. Ouais.
Même Nice.
Ouais, Nice ouais. Ouais, mais Lens qui joue rien en Europe cette année, à mon avis, ils vont les attendre à Bollard. Et c'est dès samedi, il me semble. Il me semble que ça enchaîne dès samedi.
Ouais, samedi, c'est Lens-Lille.
Donc Lille aura très peu de repos entre son match de Ligue des Champions et le match de samedi.
Surtout que Lille joue une grosse équipe.
Ouais.
Se déplace à l'Atlético.
Je pense que ça n'a pas été évident pour eux.
La gestion des effectifs, comme je le disais tout à l'heure, pour les équipes de Ligue 1, ça va être très, très, très délicat à gérer pour les coachs.
Et très rapidement, vos favoris pour le choc, le classico de ce week-end, Marseille-Paris Saint-Germain, Maxence ?
Le PSG.
Combien ?
Sans trop douter, je dirais
3-1.
3-1 ? Oui.
Pour le Paris Saint-Germain.
Je compte pas sur moi pour m'emballer et pour te dire 3-0 pour l'OM, Greenwood, Hawaii, Greenwood. Non. Ça, on va rester mesuré. Je pense qu'il y a quand même une différence entre les deux équipes. Ne serait-ce que dans la maîtrise collective, dans le talent individuel, même s'il y a quelques bons joueurs à l'OM, hein, mais quand en face, t'as du João Neves, du Barcola, c'est des joueurs qu'on n'a pas. Et je pense que Paris sera quand même supérieur.
Et toi, Kevin ?
Ouais, je suis d'accord avec lui. Il y a toujours un écart de niveau entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc, je vois Paris quand même s'imposer, mais plus 1. Je pense pas qu'ils vont leur mettre plus 2. Je vois un Marseille très
agressif.
Sauver
l'Odrome, hein.
Ouais, c'est ce que je dis, c'est que je vois un Marseille très agressif, qui n'a pas d'échéance en Ligue des Champions, qui va les cueillir avec une ambiance comme on connaît, donc compliqué pour le Paris Saint-Germain, qui n'a plus de gros stars qui pouvaient gérer la pression. On rappelle que les anciennes échéances, il y avait Mbappé, etc. Là, à voir comment des joueurs comme Barcola vont gérer ça. Donc, je pense que Marseille a un coup à jouer, mais Paris reste quand même favori quand même.
Et c'est quoi ton score ?
2-1.
2-1. Ibrahima ?
Moi, je vois bien 3-1 pour le PSG, parce que comme Maxence l'a dit, je pense que l'effectif parisien est quand même au-dessus, bien au-dessus quand même de l'effectif marseillais. Après, je suis quand même assez curieux de savoir comment on va aborder ce match au niveau du plan de jeu ou même des joueurs choisis, Luis Enrique. Parce que quand même, il est assez imprévisible comme coach en ce début de saison quand même. Et puis aussi, juste pour le storytelling, j'aimerais bien 3-1 et un petit but de Rabiot. Ça me ferait plaisir.
Ah, ça te ferait plaisir carrément.
Ouais, ça fout la merde, j'aime bien. Juste pour ça.
Ibrahima, t'es supporter de...
Oh, je suis neutre, moi.
Ah oui.
Comment t'as tué
Ah, maintenant tu es neutre. Ok. Samba.
Pour ma part, je vois un match nul. Je pense que Marseille vont aborder... Ils vont aborder ce match pas comme les autres. Je vois bien leur entraîneur mettre un schéma tactique en place. Et même au vu de l'effectif du PSG, ils ont perdu des joueurs forts, des joueurs créatifs. Je pense que ça va rééquilibrer en gros le match.
Après, je suis d'accord, PSG favori, comme on l'a dit, on est tous d'accord. Mais sur le coup, l'OM, il n'y aura pas d'excuse à une éventuelle... grosse défaite ou quelque chose. C'est pas comme à l'époque quand il y avait Zlatan, Cavani, etc. Et que, en gros, on commençait le match, on savait que c'était cuit.
Zlatané,
là en face, côté Marseille, il y a quand même des joueurs de haut niveau, que ce soit Højbjerg, Rabiot, ouais. Greenwood. Voilà, derrière, même Balerdi, moi j'aime beaucoup. Roulis, c'est un bon gardien. On a une colonne vertébrale de grosses équipes de Ligue 1. Donc, à domicile, dans un contexte avec une semaine de repos, etc., comme on l'a dit. On doit commencer le match en regardant le PSG dans les yeux. Et puis après, si ça se passe mal, ça se passe mal. Mais c'est plus la victime expiatoire comme c'était il y a 7, 8, 10 ans où on commençait le match en sachant, en se demandant si elle allait faire plus 3 ou plus 4. Là, ça ne doit pas être ça. Et l'excuse de l'effectif, il est plus important, etc. Elle ne passera pas dimanche soir s'il y a une grosse défaite avec des lacunes côté OM.
Moi, je pense qu'il y aura un match nul. 2-2. Moi, je vois bien 2-2. Et attention, attention, moi, je verrai plus Marseille gagner que le Paris Saint-Germain. Je vous le dis. Hein. Voilà, on en reparlera de toute façon la semaine prochaine.
Tu t'enflammes.
Non, du tout, du tout, du tout. Je suis très neutre. Ah non, 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 je suis très neutre. Et là, je le dis vraiment. Je te le dis vraiment honnêtement. Depuis le début de saison, c'est ce que je pensais. Et je pense que Greenwood va planter, va y aller de sa main. Hein, et c'est maintenant qu'il doit, il doit performer vraiment. Parce que même s'il marque contre Montpellier, il marque le quatrième but, c'est pas un but très important non plus. Voilà, là je pense que...
C'est là où on l'attend là.
Exactement. Et je pense que c'est là où il devra prouver vraiment ce qu'il vaut. On va se faire une petite virgule juste avant de reprendre. On va enchaîner avec la Liga. La Liga avec Mbappé qui nous marque un but majestueux juste après la performance et la passe de Modric vraiment envers Vinicius qui conclut. Le Real Madrid qui s'impose difficilement quand même au Celta Vigo, 2-1. Le Real Madrid qui se sont rapprochés du Barça juste avant que le Barça fasse presque une manita, 5-1 face à Séville avec un Lewandowski en pleine bourre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, messieurs? On commence par Kevin.
Ouais, c'est vrai que le Real cette année a du mal à dérouler, donc gagne ses matchs, mais gagne ses matchs difficilement. On rappelle qu'il y a eu le transfert d'Mbappé qui a un peu chamboulé l'effectif. Ils avaient un effectif bien rodé, un 11 bien défini, avec une formation bien définie l'année dernière où ils ont tout gagné. Donc là, Ancelotti a intégré Mbappé au collectif. C'est vrai qu'on a l'impression que le Real n'est pas encore rodé. On a l'impression que le Real se cherche encore, mais qui, grâce à ses individualités, continue de gagner des matchs. Après, en ce qui concerne le Barça, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On a vraiment l'impression qu'ils ont un collectif, qu'ils arrivent à s'entendre et que tout se moule bien en Barça, en fait. On dirait que tout se passe bien et on a un gros choc ce week-end. On verra
cette
comment
semaine,
ça va
même
se passer.
Cette semaine, même avant ce week-end,
mais
oui.
Ouais. Revenir, mais oui. Non, mais après, tu me parles de la Liga.
Non, oui, oui, bien sûr. Oui, oui.
On a un gros choc. Après, gros choc avec une défense barcelonaise qui prend des buts. À voir contre... Mbappé et Vinicius, quoi, qui on sait, qui aiment beaucoup ce genre de match-là. Mais ce sera un super classico. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un beau classico comme ça.
Où on était impatients, vraiment.
On avait perdu cette impatience du classico.
Exactement.
Et là, on a l'impression qu'il y a vraiment un choc et on veut vraiment voir ces oppositions de style, ces oppositions de joueurs. Et même pour la première d'Mbappé, premier classico en Liga. Donc. On attend avec impatience.
Ouais, c'est vrai que dernièrement, on savait, avant le Classico, on savait déjà que le Real allait rouler sur le FC Barcelone. Du coup, ça intéressait pas trop tout le monde. Alors qu'avant, dès qu'il y avait un Classico, tout le monde courait pour aller voir les matchs. Et là, c'est vrai que c'est un peu...
Rouler sur le FC Barcelone, voilà. Je me rappelle d'un 4-0 avec Aubameyang. Bon, après, bon.
On va pas rentrer dans les détails.
Avec un effectif réduit.
Mais on sait que ça fait longtemps que Barcelone n'a pas battu le Real Madrid. Ibrahima, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, ce week-end en Liga, bah déjà je m'amusais à regarder comme ça les top buteurs européens. J'étais surpris de voir que Lewandowski avait mis autant de buts déjà. Je pensais qu'on était retourné 5 ans
en arrière. En ce moment.
Je pensais qu'on était retourné 5 ans en arrière à Munich. Hein,
bah, comme avec Hansi Flick, tout simplement. C'est pour ça que ça marche.
J'étais pas préparé à voir qu'il avait mis autant de buts. Je pensais qu'Alain en avait mis plus, mais non.
Ouais, il est à 12 là.
Ouais, il est à 12. Alain en a 10, je crois. Donc, il revient bien, comme quoi, hein, malgré l'âge. Et puis après, maintenant, ce week-end en Liga, bah, je pense que chaque équipe a respecté son rang. Hein. Le Real s'est imposé difficilement, mais comme à chaque fois depuis un certain moment quand même en championnat, les victoires sont de plus en plus poussives du côté madrilène.
Ah, c'est pas le Barça. Hein.
Et puis, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous interpeller, mais je pense pas que l'arrivée de Mbappé, ça a apporté... Je pense que, autant c'est un joueur très talentueux, il n'y a rien à dire là-dessus, et il apporte forcément à l'équipe, hein. Mais je pense que quand même, ça a créé un certain déséquilibre sur le terrain. C'est ce que je ressens, moi, en tout cas. Parce que comme Bellingham se projette moins, forcément, Vinicius accapare forcément moins le côté gauche. Et c'est ce qui faisait quand même, la saison passée, l'efficacité de l'effectif. Donc, je pense que c'est l'équipe qui... Ça manque d'automatisme encore. Donc, ils cherchent un peu. Je pense que ça finira par arriver. Mais selon moi, c'est la cause à ces différentes victoires assez poussives côté madrilène. Et surtout, la perte d'un joueur comme Toni Kroos aussi. Hein, parce que...
Qui a organisé vraiment le jeu.
Organisé le magicien. Le jeu avec des passes millimétrées, ouais. Comme on en voit rarement. Même si Modric en a fait une belle ce week-end, ouais. À Vinicius. Mais ouais, sinon, après, par rapport au Classico, bah, pour ma part, ouais, le Barça est quand même très fort en ce moment.
On va y venir au Classico juste après.
Je sais pas trop, mais...
Ouais, on va y venir au Classico. Ouais. Et toi, Samba ?
Donc, concernant la performance du Real, tout a été dit. Après, comme l'a évoqué Brahima, on voit qu'il y a un certain déséquilibre avec l'arrivée de Mbappé. Donc, après, on va voir si Ancelotti sera réglé le souci. Parce qu'on voit que on entend des bruits de couloir comme quoi certains joueurs sont un peu frustrés concernant leur performance d'antan. Et en ce qui concerne le FC Barcelone, bah, on voit que Lewandowski revient à son niveau. Après, juste le seul hic avec Barcelone, c'est que leur seul attaquant, c'est Lewandowski. Je me dis, là, il est sur un bon niveau, mais si plus tard, son niveau baisse, je vois pas qui d'autre pourra combler la solution au niveau de l'attaque.
Ferran Torres.
Ouais, mais Ferran Torres, non. Oh là là. Franchement, Ferran Torres, non.
Hugo Martinez.
Qui ?
Hugo Martinez, le petit jeune là qui
ouais,
a
joué. Mais en fait.
Ouais, mais en fait, c'est trop jeune.
C'est jeune. Après, tu remplaces pas un Lewandowski.
Ouais, voilà, c'est ça.
Tu sais, les gens, c'est ouais. Comme je disais, je parlais de ça, c'est ouais. Que les gens pensent toujours que la jeunesse, c'est forcément plus fort que ces joueurs qui sont expérimentés. Et moi, au fur et à mesure, j'ai une autre vision. Et je trouve que plus ces attaquants ont de l'expérience, on l'a vu avec Benzema, plus ils deviennent hyper forts. Et après, on connaît Lewandowski, il est hyper adroit.
Ouais. Après, même élément extérieur, sa femme, c'est nutritionniste. Donc, c'est un mec qui est sérieux.
Il est hyper pro,
voilà.
Ouais.
Ouais, il est hyper pro. Ouais, c'est après, sûr. Voilà. Après, Barcelone, en ce moment, rien à dire. Juste les quelques problèmes défensifs. Ouais, mais après, à régler. Hein.
À régler. Et toi, Maxence ?
Moi, concernant le Barça, je suis hyper séduit, mais c'est juste la question sur la durée par rapport au championnat. Est-ce que ça va pouvoir tenir la durée avec la Ligue des Champions en parallèle, etc. Il y a quelques hommes clés, comme on disait, Lewandowski, mais il y en a 3-4 autres. C'est bien s'ils ne se blessent pas, c'est mieux si...
Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus. Hein. Oui, Frankie de Jong, Olmo, Gavi.
C'est sûr.
Donc là...
Ça va commencer un peu à tourner.
Ça va pouvoir tourner un peu au milieu, notamment. Après, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus huilé que le Real. Mais bon, le Real, on a appris avec les années à ne pas tirer trop de conclusions, surtout avant les gros matchs. On sait qu'ils sont capables de nous faire un match un peu dégueulasse et de gagner 1-0 sur une tête de Bellingham voilà, à l'arrache. Mais je partage vos différents avis sur le Real et sur l'intégration de Mbappé, qui met un super but ce week-end, mais qui n'est pas bon dans le jeu. Hein. Ouais. Son match, il n'est pas bon du tout.
Enfin, il refait les mêmes choses qu'au Paris Saint-Germain.
Les déplacements sont catastrophiques. Exactement. Techniquement, c'est faible. Techniquement, par rapport au reste de l'équipe, c'est faible. Voilà, donc après, on sait jamais, il va plus aussi vite qu'avant, on sait jamais, mais le temps que ça prenne ses marques, etc., il est dans une phase difficile dans sa vie personnelle également, mais voilà, moi, si je dois donner un mini favori pour ce week-end, je dirais le Barça. Après, pour le championnat dans sa globalité, je sais pas, parce qu'à mon avis, le gros effectif du Real au cœur de l'hiver, il pourra faire le taf le week-end entre les matchs de Ligue des Champions, etc. Et pour le Barça, je demande à avoir confirmation à ce sujet.
Merci Maxence. Et toi, tu te projettes comment sur le Classico de ce week-end
Kevin ? Moi, je pense qu'on aura un Classico avec deux équipes qui auront envie de gagner, que des attaques. Je ne pense pas qu'on aura un match fermé. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de spectacles. Je m'attends à Vinicius en feu. Je m'attends à Lamine Yamal en feu. Franchement, je m'attends à un super match. J'espère que je ne serai pas déçu. Et comme il disait, c'est... Mbappé, les automatismes, c'est compliqué. On sait qu'il a une super finition, une super qualité de frappe, mais c'est pas huilé. On sent que les joueurs du Real ne se comprennent pas avec lui. Et moi, j'ai un joueur comme Rodrigo, par exemple. Je me mets à sa place, c'est compliqué. Apprendre avec des pincettes, mais on voit aussi que Bellingham vit mal la situation d'être un peu moins mis en avant. Bon, apprendre avec des pincettes encore, mais on sent que le Real n'a pas un 11 fort. Qui était leur force auparavant, on sent que c'est pas fissuré, mais c'est pas solide non plus. Donc à voir comment ils vont gérer ça, et s'il y a une grosse défaite contre le Barça ce week-end, ça va être compliqué. Même si la presse les protège beaucoup, faudra en parler.
Merci Kevin. Ibrahima, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce week-end, de ce classico qui arrive ce week-end?
Bah, comme. Ouais, comme on l'a dit, plus ou moins globalement, un léger avantage quand même pour le Barça, qui est sur une meilleure dynamique et qui propose un meilleur football, hein, tout simplement ces temps-ci. Les victoires sont moins poussives que le Real Madrid. Après, par rapport à ce week-end, bah, ça reste un classico, donc forcément tout le monde est surmotivé. Mais je vois quand même, je vois un match nul, moi, personnellement. Ça, à Bernabéu, je vois pas le Barça s'imposer à Bernabéu.
Surtout que
Mais.
le Real, je vais rajouter juste quelque chose, surtout que le Real veulent battre le record du FC Barcelone, hein, 43
Ouais,
matchs
j'ai vu
sans
ça, ouais.
défaite, et là ils peuvent enchaîner un autre match sans défaite face au FC Barcelone, ça serait le cas de le battre
Ouais, il y a des
dans...
records à battre
T'as
en
des records
plus,
à
donc
battre.
ça va encore plus motiver les joueurs. Mais après, ouais, moi, le manque d'automatisme qu'il y a au Real Madrid, c'est ça me c'est, je m'interroge de plus en plus parce que la saison évolue, on voit pas de progrès. Donc,
Ouais.
l'équipe, je pense que les malgré l'arrivée de Mbappé, j'ai l'impression que l'équipe est moins forte que la saison passée, en fait. Et c'est ça qui
Ouais,
me
je suis
dérange un
d'accord.
petit peu.
Et puis ce week-end, vous voyez Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham jouer tous ensemble? Parce
Non.
que moi, on va avoir un sujet, à mon avis, ça va être sur le Barça qui va avoir le ballon, le Barça qui va aussi attaquer, notamment sur les côtés. Il va falloir que les mecs fassent les efforts, hein.
Ouais.
Défensivement, il va falloir qu'ils fassent les efforts. Donc à mon avis, il y en a un qui va être sacrifié, comme d'habitude, ça va être Rodrigo. Et je pense que
Surtout
ça va
que
ajouter à son.
ouais. Surtout que Carvajal n'est pas là.
C'est
En
vrai,
plus, un
exactement.
joueur très très expérimenté qui connaît ces matchs-là. Donc on va voir. Moi franchement, Tchouaméni, je l'aime bien, mais en face il y a du ballon. À voir comment ils vont gérer ça. Après, on sait que le Real n'a pas besoin d'avoir la possession pour gagner. Donc ils ont l'habitude de ces matchs-là où ils laissent la possession.
Il faut faire des sacrifices
Mais
du coup
faudra se
aussi.
sacrifier, ouais, exactement. Défensivement, faudra de la rigueur.
C'est pas la spécialité de certains.
Ouais.
Et toi, Samba?
Franchement, difficile à me prononcer sur le classico de ce week-end. Après, il faut savoir que Barcelone, ils ont un match en milieu de semaine contre une certaine équipe. Donc, je me dis, j'espère qu'ils vont pas laisser des plumes
Comme
là-bas.
le Real, hein?
Le Real, il joue.
Dortmund,
Ouais,
remake de la finale, bah,
exactement.
Champions, ça. Hein.
En plus, ça va,
C'est à
après avoir
Madrid ou
perdu à
c'est
Lille, il va
à...
falloir, comment, va
Ouais.
falloir gagner.
Ouais, il va falloir gagner
Ouais, exactement,
impérativement.
exactement.
C'est à Madrid ou Dortmund?
Deux. Ah,
Il me semble que c'est à Madrid. Me semble.
C'est pas à l'extérieur?
Non, c'est à Madrid, c'est
Non, c'est à
Madrid.
Madrid.
À
Ouais.
Madrid,
Bernabéu, ouais.
ok.
Ouais. Équipe à ne pas sous-estimer,
Ouais.
Dortmund. Hein.
Oui, donc
Franchement.
voilà. Après, je me dis quoi? Je me dis, franchement, si au niveau de Barcelone, si franchement ils démarrent fort l'entame du match, ils peuvent faire très mal au Real Madrid. Après, on sait que le Real Madrid, eux, ils ont pas besoin d'avoir le ballon. Et il faut pas leur laisser l'opportunité, entre guillemets, d'être dans le confort. Et ils peuvent faire très mal sur la fin du
Ouais,
match. Ils
ouais,
peuvent
ouais.
finir très fort. Et voilà. Après, en ce qui concerne le Real Madrid, comme l'ont dit, comme l'ont évoqué, comme tout le monde l'a évoqué, il faut que certaines personnes fassent les efforts. Voilà.
Merci pour cette analyse sur la Liga. Je rappelle le classement. Barcelone premier avec 27 points. Le Real Madrid deuxième avec 24 points, pardon. L'Atlético de Madrid qui complète le podium avec 20 points. Voilà, qui se sont imposés ce week-end avec un but d'Antoine Griezmann, qui a pris d'ailleurs un carton rouge 5 minutes après son but. Mais ça n'a pas valu grand-chose à l'Atlético qui se sont imposés 3 buts à 1. Et Villarreal quatrième avec 18 points. Et en fin de tableau. Valladolid 18e, Valence avec 7 points qui joue contre Las Palmas en ce moment même, qui sont à 4 points virtuellement. Voilà pour la Liga, on va se faire une petite virgule avant de passer à la Ligue des Champions. Ligue des Champions, le remake de l'année dernière, Real Madrid face à Dortmund, à Santiago Bernabéu. Avec un gros choc, notamment le mercredi, entre le FC Barcelone et le Bayern. Remake du 8-2 ou pas? Non.
Non.
Ok.
T'abuses
Non,
là, tu.
non, c'était pour voir si vous me suivez.
Ouais.
Du coup, on va enchaîner tout de suite, hein, très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez du remake de cette Champions entre le Real Madrid et le FC Dortmund?
Dortmund, belle équipe qui a pas sous-estimé ce match-là. On connaît leur capacité à mettre le feu. notamment dans les gros stades, sur les matchs de poule, etc. Donc je pense qu'ils vont être un peu poil à gratter pour le Real, qui ne peut pas se permettre de prendre ce match à la légère, étant donné qu'ils sont passés à travers à Lille sur leur deuxième match. Donc s'ils ne veulent pas se compliquer la tâche, on va dire, et conserver, pardon, des chances de rester dans les 8, de se qualifier directement en 8e, va falloir qu'ils prennent ce match à fond. On a vu qu'ils avaient eu des difficultés sur le premier match face à Stuttgart en Ligue des Champions, aussi au Bernabeu, contre une équipe allemande. Dortmund, à mon avis, ça a été à peu près la même chose en meilleur, avec plus de qualité offensive pour les mettre à mal. Donc moi, je ne serais pas étonné que ce soit un peu compliqué pour le Real.
En rappelant que Dortmund sont leaders hein, de la Ligue des Champions, hein, on rappelle, avec 6 points et une différence de but plus 9, du coup, ce qui font de eux les meilleurs, tout simplement la meilleure en Ligue des Champions, en tout cas pour l'instant, en différence de but. Et toi, Ibrahima, qu'est-ce que t'en penses de ce remake?
Bah, je vois le Real quand même favori face à cette équipe de Dortmund qui, je rappelle, c'est personnellement, je trouve que c'est l'une des équipes les plus irrégulières d'Europe, enfin limite. Enfin, ils sont capables d'en mettre 5, d'en mettre 7 à Glasgow et d'en prendre 5 à Stuttgart. Donc,
Là, ils peuvent
c'est
taper
plus.
le Real et perdre contre le
Et d'aller
Dynamo, je sais pas quoi
perdre
après.
contre Heidenheim ce
Hein.
week-end
C'est
6 à
sûr.
0. Donc, on ne sait pas trop avec cette équipe. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des bons joueurs. Hein. Même Guirassy qui met pas mal de buts en ce moment. Il y a Adeyemi que j'aime beaucoup. Emre Can aussi au milieu de terrain, très bon joueur. C'est une belle équipe Dortmund. Hein. Après, encore une fois, le Real part favori. Et je pense que le Real tiendra quand même à se racheter de sa défaite face à Lille parce que. Avec le nouveau format de Ligue des Champions, enchaîner les défaites comme ça, on peut vite se retrouver à jouer les barrages, etc. Et ça peut être compliqué quand même sur toute une saison. Donc je pense que le Real va s'imposer quand même face à cette équipe de Dortmund.
On espère en tout cas. Et toi, Kevin?
Ouais, comme on disait, Dortmund, une équipe avec de la grosse activité. On voit la différence de but qu'ils ont un potentiel offensif. Ils ont un gros potentiel offensif avec un Adeyemi virevoltant. Comme je disais, on connaît le Real Madrid.
Un Serro Guirassy aussi,
Ouais,
notamment,
Serro Guirassy
qui
aussi,
plante
qui fait une bonne
beaucoup.
saison.
Hein.
On
Un
attendait
très bon
très très
saison.
gros très très grosse recrue.
qu'il confirme. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, content pour lui. Parce qu'il a été un peu critiqué, donc notamment à sa non à la liste des ballons d'or là.
Ouais, dans les
Ouais.
30.
Ouais, ça, voilà. Donc il est en train de performer, c'est bien. Mais je vois quand même le Real s'imposer. Mais attention, parce que ce Real de cette année, comme je disais, avec un milieu avec moins de créativité, une attaque avec moins d'automatisme. Je sais pas, mais je vois quand même le Real s'imposer quand même. Vu qu'ils ont déjà perdu des points à Lille, je pense qu'ils vont avoir des matchs avec beaucoup d'envie.
Merci Kevin. Ibrahima?
J'ai déjà parlé.
Ok,
Ouais.
Samba, pardon.
Concernant ce remake, franchement, comme l'ont évoqué, Dortmund, c'est très, très irrégulier. Et même du côté du Real, bah, comme l'a évoqué Kevin, il a soulevé un très, très bon point, le manque de créativité. On voit que la perte de Toni Kroos, ça fait mal. Hein. Franchement, ça fait mal. Parce que je pense que c'est ce joueur-là qui pouvait rééquilibrer bah, le jeu du Real. Parce qu'on voit que
Ouais,
ça manque de dernière passe.
c'est pas
Et de
huilé quoi.
maîtrise au global, de maîtrise au
C'est ça.
global.
Mais surtout, ouais.
C'est limite, on dirait, ils savent pas quoi faire avec la
Ouais,
balle.
ouais.
Et c'est compliqué.
Et ça symbolise particulièrement avec un joueur comme Tchouaméni, quoi, qui
Ouais, c'est l'exemple
contrôle,
parfait.
il refait la passe au mec à
Il
côté
est
de lui, derrière.
valeureux, il est courageux, etc. Mais ça doit pas être suffisant pour
Non,
être au
tout le
milieu au
monde ne
Real.
peut pas être Toni Kroos,
C'est
quand
sûr.
Oui,
même.
mais
Là,
en
ce qu'on
fait,
demande, c'est de faire du Toni
on parle du milieu
Kroos.
du Real quand
En
même.
fait, le
Il faut.
problème. Le problème, c'est que pour moi, un joueur comme Tchouaméni, ça doit pas être le joueur créatif. Ça doit être le joueur qui accompagne le joueur
Il n'en a pas
créatif.
les capacités, de toute façon.
Voilà, c'est pas sa qualité première, la
Ouais, c'est
créativité.
plus la
Ouais,
récupération.
la récupération.
Mais je
La
trouve
créativité,
que.
moi, je pense plus à Arda Güler.
Oui,
Exactement.
mais.
Même
Je trouve que
Kamavinga aussi.
Même
Arda Güler.
Kamavinga
Arda
aussi.
Güler,
Non,
c'est
mais
plus
plus
sur le terrain quand
ouais, non,
même.
mais je pense qu'Arda Güler, ça peut être quelque chose. Mais
Ça, je
après,
pense. Peut-être lui, mais il
faut.
n'arrive pas à s'imposer dans ce groupe
Ouais.
du Real Madrid. Après, est-ce que Ancelotti lui donne sa chance? Mais après, Ancelotti, c'est un grand coach. Il voit par rapport aux entraînements. Et s'il lui donne pas sa chance, c'est peut-être qu'il n'est pas encore prêt.
Il lui donne sa
Ouais,
chance. En tout
mais.
cas, là, régulièrement, il rentre. Régulièrement, il rentre. Même quand le match est. Bah, comme là,
Mais
dernièrement,
pour moi, c'est pas
contre le
assez.
Celta Vigo,
Tu
il les
sais,
fait rentrer, quoi.
pour moi, quand tu rentres remplaçant, c'est pas pareil que quand tu es titulaire. Le match a déjà commencé. Il y a déjà un contexte dans le match. T'as pas cette liberté de faire tes propres choix, tu vois. Soit tu dois maintenir un score, soit tu dois... Toi, t'as des consignes précises. Et j'aimerais bien le voir en titulaire, 2-3 matchs. Ouais. On avait avec Brahim Diaz qui était super en remplaçant et qui a du mal en titulaire.
Qui est blessé notamment, qui va bientôt revenir, on espère.
Donc, parce que Brahim Diaz, le Real, c'est un super peut trouver un joueur créatif. On sait, même Bellingham, je trouve peu créatif.
Bah là, il est redescendu sur le terrain.
Par contre, il fait du bien, par contre. Dans les efforts et tout.
Ouais, c'est clair. Ouais, mais contrairement à d'autres, il fait beaucoup d'efforts.
Après, on voit que ça le fatigue un peu de charbonner à ce point-là. Il s'est énervé contre Lille en fin de match face à Vinicius et Mbappé qui étaient les bras croisés à l'opposé.
C'est comme Bellingham qui remonte le ballon contre le Celta Vigo. Il avance. Mbappé, normalement, qui doit faire un appel en profondeur.
Il demande en retrait.
C'est vrai que Bellingham.
Il y a un manque de communication dans leur équipe.
C'est pour ça que moi, je pense que Bellingham, il ne doit pas apprécier cette situation.
Exactement. Il ne fera pas 50 matchs comme ça, à mon avis.
Je pense qu'au bout d'un moment, il y aura une discussion. Je pense pas qu'il apprécie cette situation.
On va enchaîner avec le Paris Saint-Germain aussi, qui joue dans la même soirée face au PSV Eindhoven à domicile. Le Paris Saint-Germain qui n'ont pas le droit à l'erreur, un peu on peut dire ça, hein, après la défaite un peu honteuse à l'Emirates Stadium. Ibrahima, qu'est-ce que t'en penses?
La victoire est impérative, hein, comme tu l'as dit, la défaite à l'Emirates. Moi personnellement, j'étais très 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 déçu. Enfin, c'est limite, l'équipe a du mal à se procurer ne serait-ce qu'une occasion. J'ai pas compris, en fait. J'étais déçu du niveau de jeu du Paris Saint-Germain. Après, le gardien aussi, il se trouve sur les deux buts, quand même, faut le dire. J'aime pas taper sur un joueur, parce que je pars du principe qu'on joue à 11 et on gagne à 11, on perd à 11, donc j'ai un peu du mal avec ça, mais sur les deux buts, il est assez fautif quand même. Après, Arsenal avait quand même bien joué, et on sent que cette équipe d'Arsenal avait très bien étudié l'équipe du Paris Saint-Germain, donc chapeau à Mikel Arteta sur ça. Maintenant, par rapport à ce match face au PSV, qui sur le papier est une équipe forcément un peu plus faible que le Paris Saint-Germain, c'est quand même premier de rediviser, donc c'est pas négligeable. Il y a des joueurs comme Jonathan Bakayoko notamment, qui font beaucoup de mal dans cette équipe. Après, il va falloir aborder le match sérieusement. Et surtout, offensivement, il va falloir se libérer en Ligue des Champions, parce que pour l'instant, il n'y a aucun but marqué. Hein.
C'est une erreur du gardien.
Ouais. De Gérone, donc... Il va falloir se libérer offensivement et aller plus vite vers le but, parce que c'est très lent le Paris Saint-Germain.
C'est là où on attend Ousmane Dembélé, qui n'était pas là notamment à l'Emirates Stadium, qui a été de repos.
Je pense pas que ça aurait changé grand chose, honnêtement.
On sait pas, on peut pas le savoir, mais bon. Qui a été de repos et qui est de retour là.
De repos, voilà. Il était plus puni quand même.
Oui, non, qui est puni, mais qui était de repos le dernier match là. Dernier match, il n'a pas joué, il était de repos. Il l'a mis de repos, en tout cas, il l'a laissé sur le banc. Et pour qu'il soit plus performant, en tout cas, du moins pour le prochain match à venir face au PSV Eindhoven. Kevin, toi, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses de cette.
Comme on disait, le Paris Saint-Germain a du mal à marquer des buts en Ligue des Champions et se prend des buts en Ligue des Champions. Il a parlé de Donnarumma, c'est vrai que c'est pas la première fois Donnarumma qu'en Ligue des Champions il fait perdre des points à son équipe, et il faut vraiment qu'il se réveille. J'ai l'impression qu'il a eu une impunité ou limite que c'est tabou, mais défensivement et avec ce gardien là c'est compliqué d'aborder des grosses échéances. En ce qui concerne offensivement, Dembélé, bon, on sait pas trop si c'est du repos, s'il est puni, on sait pas vraiment trop ce qui se passe, mais après normalement tu dois pas compter sur Dembélé pour gagner des matchs. Quand tes armes offensives, c'est Dembélé et Barcola, ça va être dur d'aller prendre la Ligue des Champions. C'est pas des mecs qui mettent beaucoup de buts dans les grands matchs, c'est pas des mecs qui ont une expérience, c'est pas des mecs tranchants. C'est, pour moi, l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est vraiment, vraiment, vraiment faible. Et pour moi, la défaite à Arsenal, c'est pas du tout une désillusion. C'est que vraiment, c'est logique. Ils en ont pris deux en première mi-temps. Arsenal, ils ont fermé la boucle, ils n'ont même pas attaqué la deuxième, et terminé, au revoir. Et Arsenal, s'ils ont été capables de le faire, je pense que d'autres équipes seront capables de le faire, et ça va être compliqué. Donc contre le PSV, je vais voir l'intensité qu'ils vont mettre, même au milieu de terrain. Zaïre Emery, je l'aime bien, mais...
C'est pas assez. Tchouaméni, je l'aime bien. Après...
Non, je l'aime bien parce que tu sais, moi, il y a des joueurs,
que tu n'aimes pas.
Que je n'aime pas. Mais je le dis pas quand je l'aime pas. Mais quand j'aime bien, mais c'est faible. C'est pas assez pour la Ligue des Champions. Pour moi, le Paris Saint-Germain n'a pas un effectif rodé pour la Ligue des Champions.
Ah, qui ont City et le Bayern à jouer aussi, hein, en
ça
au top.
Va être très compliqué. Si tu perds des points contre des équipes là, contre Arsenal, contre Gironde, c'était juste. Ils ont marqué à la fin. Des attaquants qui n'ont pas ouvert le compteur en Ligue des Champions, qui doutent. Contre les grosses échéances, franchement, le Paris Saint-Germain doit faire attention. Et, encore une fois, je trouve que Luis Enrique a une sorte aussi d'impunité. On n'ouvre pas le sujet. On n'ouvre pas le sujet. On le prolonge comme s'il a des résultats hyper satisfaisants. Alors que je trouve qu'il ne devrait pas avoir cette immunité-là.
Se permettre de jouer avec un faux neuf.
C'est ce que j'allais dire. Va falloir arrêter de se permettre de jouer avec Kangin Lyon en faux numéro 9. C'est
n'importe
quoi. C'est une insulte au football, la limite, ce qu'il fait. C'est,
mais après,
c'est grave c'est, de faire
j'ai
ça.
Envie
c'est mettre dans le confort les adversaires.
Mais oui, c'est
la Colomanie.
Non, ça va revenir aussi.
Il n'est pas mauvais. Même ça, c'est pas
mauvais. Excusez-moi, moi je pense qu'on ne laisse pas sa chance à Colomanie.
Clairement pas. Non, je pense que c'est limite personnel avec lui. C'est pas possible. Parce que même face à Arsenal, il met 45 minutes. Et après, tu fais ça un joueur, mais tu le tues en fait. Laisse-le jouer tout le match. Après, c'est sûr que bon, il n'est pas extraordinaire. Mais moi, sur le terrain, je trouve qu'il se bat bien quand même sur le terrain. Après, il est bien en confiance, donc forcément, il ne va pas marquer.
Mais il faut être fort avec ses pieds.
Non, mais il donne tout.
Non, Ramos va revenir. Ramos, c'est un meilleur neuf que Colomoini.
Colomoini, il a eu des opportunités.
Je le trouve dur avec lui quand même.
Non, Colomoini, il a eu des opportunités, franchement.
Je le trouve dur avec lui.
Mais il n'est pas devenu nul du jour au lendemain quand même.
Avec l'équipe, c'est un joueur moyen.
Même en EDF, il a mis un doublé face à la Belgique. Je l'ai trouvé bon.
Il nous a blagué en Allemagne.
Mais je trouve qu'il n'est pas rodé pour la Ligue des Champions. Encore une fois. Quand tu vas tomber sur des défenseurs expérimentés qui ont joué contre des grands attaquants,
Ruben Dias.
Mais ils vont le mettre dans sa poche. Comment lui, Colomwani, peut se défaire d'un marquage contre un grand défenseur? Est-ce qu'il est fort de la tête? Incroyable? Non. Est-ce qu'il est fort en dribble? Non. Est-ce qu'il fait des appels hyper tranchants juste à la limite du hors-jeu? Non.
Pas besoin d'un grand défenseur.
Oui, après là, on n'en est pas là pour l'instant. City, Bayern, etc., on n'en est pas là. Le PSG, c'est pas là.
Contre Arsenal, on l'a
c'est
vu.
C'est pas la même catégorie pour
contre
l'instant.
Arsenal, on l'a
c'est
vu.
Pas la même catégorie. Aujourd'hui,
je pense que c'est pas la même catégorie.
Parce qu'il y a un an, on aurait pu dire que.
Aujourd'hui, c'est pas la même catégorie. Et pour moi, c'est pas dans les prétendants à la Ligue des Champions. Si je dois en citer 5-6, je cite pas le PSG dedans.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me fait peur ce coach. Parce qu'il me dit que l'objectif, c'est pas de gagner la Ligue des Champions. Mais enfin, je sais pas, moi, les supporters, ça fait 12 ans qu'ils attendent ça.
J'ai l'impression.
L'effectif, on régresse d'année en année. Je sais pas.
Ouais, mais l'erreur, c'était de dire il y a 12 ans, notre objectif, c'est de gagner avec des champions. C'était ça l'erreur à la base.
Mais quand t'achètes Neymar, c'est pas pour gagner la Ligue
des Champions. Oui, mais c'était pas il y a 12 ans.
Je trouve là où je te
rejoins. Oui, je sais, mais
j'ai l'impression que Luis Enrique, limite, anticipe un possible échec.
Oui, c'est ça, en fait. Dans sa communication, en tout cas.
Je trouve que ça manque d'ambition. Mais après, est-ce qu'il. Parce qu'en vrai, il est conscient de son effectif.
Il est lucide aussi.
Il avait le choix.
Mais ces joueurs, ce coach-là, durant le mercato, il nous a fait tout un speech. On n'a pas besoin de joueurs. On a un effectif rodé, etc. Donc, je suis désolé. Il y avait des attaquants sur le marché.
Osimhen.
Il y avait des ailiers. Il y avait des milieux.
Gyökeres, il n'était pas à vendre. Je pense que.
Si tu déposes 100 millions,
avec le Qatar,
ça close.
Tout le monde a.
Mais quand tu mets 80 sur Gonzalo Guedes, 90 sur Colomwani, après, au bout d'un moment, c'est sûr que le Qatar, ils vont dire wow, doucement.
Ouais, c'est
encore
sûr.
Doucement.
Mais
soit t'en vends un, on en prend un autre.
J'ai l'impression que le PSG attend qu'un joueur pète sous les projecteurs avant de se mettre sur lui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une cellule de recherche qui anticipe vraiment le potentiel. On l'avait avec Colomwani, on a l'impression qu'il l'a recruté sur le match contre l'Argentine.
Bah, j'ai l'impression que Colomwani, sincèrement, j'ai l'impression que.
La Coupe du Monde, il est bon à Francfort.
Il est très bon à Francfort. C'est 20 buts, 20
passes. Après, la Bundesliga, Anthony Modeste, il a fait 20 buts en Bundesliga.
Attendez, les gars, attendez, les gars. Mais moi, pour ma part, j'ai l'impression que Colomwani, il a été recruté par rapport à Mbappé.
Ouais, aussi.
Honnêtement.
Aussi, il y a ça, ouais.
Donc après, vous allez me dire que Dembélé a été recruté. Par rapport à Mbappé aussi.
Bah c'est pas impossible. Hein.
C'est pas impossible.
Ça a aidé.
C'est pas impossible.
C'est pas la raison principale, mais ça a participé.
Ça a participé. Après, pour ma part,
ce
trio d'attaque, j'ai toujours trouvé suspect. Moi,
lequel?
Mbappé, Dembélé et Colomwani. Même en EDF, c'est compliqué.
D'accord. Merci beaucoup pour ce freestyle débat. On va continuer. Excusez-moi, mais le temps tourne. On va continuer avec Monaco face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Très rapidement, qui veut s'exprimer?
Pour moi, ils vont dérouler.
Pour moi, ils doivent dérouler après leur échec.
Ils jouent à domicile.
Justement, le match face à Zagreb, il était bourbier. Genre, je ne sais pas si vous avez vu la pelouse. C'est un miracle même qu'ils fassent match nul. Hein. Donc là, c'est à Louis II, il me semble, face à Belgrade.
Oui, c'est à Louis II. Le terrain n'est pas mieux non plus, à ce qui paraît.
Ouais, non, mais oui, même en Ligue 1, on le voit. Ouais, mais il pleut.
Au moins, il n'y aura pas de la grêle.
Il y aura de la boue à un moment donné.
Ok, on va poursuivre du coup Monaco qui doivent dérouler. Mercredi, on enchaîne avec nos équipes françaises, Brest qui vont recevoir les champions en titre allemands Bayer Leverkusen. Très rapidement, qui veut s'exprimer dessus.
Ça va dérouler, mais dans l'autre sens.
À Brest, moi je dis plus rien. Moi je les vois perdants depuis le début et ils mettent deux raclées. Donc là, je les vois. Non, là, je les vois perdre aussi. Logiquement, la barre elle est trop haute. Et mais bon.
Attention, c'est ce qu'on disait.
Jamais, ouais, Leverkusen c'est le favori,
mais là je pense qu'il n'y a pas match.
Ils n'ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Ça veut dire qu'ils vont se libérer. Et quand une équipe joue libérée, ça peut faire des. Ça peut créer des sérieuses surprises.
Comme on peut en prendre 6 aussi.
C'est ça. Merci pour Brest. En tout cas, on espère que Brest vont le faire. Et juste après, on a Lille qui vont jouer à l'Atlético de Madrid. Est-ce que Lille peuvent se faire. Peuvent devenir les rois de Madrid?
Oui.
Ouais, j'y crois. Ouais.
Oui.
Parce que l'Atlético face à Benfica, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Une défaite. Ouais. Ils en prennent 4, je crois.
4 ou 5.
Ouais, donc.
Je sais plus. Mais...
Enfin, Benfica, c'est.
Ouais, non, Benfica, c'est... surtout à domicile, c'est
4-0. Costaud. Ouais, ils prennent 4-0 contre le Benfica.
C'est pas impossible pour Lille, ils peuvent c'est le faire impossible. Après encore.
Moi, enfin, Lille.
Vas-y, je t'écoute.
Non, je vois un retour à la réalité pour Lille. Je pense que, bon, contre le Real, c'était top. Leur match, il était incroyable. Le Real était pas. N'était pas non plus à 200%, je pense. Là, l'Atlético, c'est moins clinquant. Hein. C'est pas incroyable, mais c'est quand même des mecs qui ont l'habitude de ces matchs-là, de la Ligue des Champions.
Mais c'est pas impossible. L'Atlético, techniquement, c'est pas trop.
Moi, je crois que cette année, l'Atlético, je regarde les résultats en Liga.
Moi, je vois avec Sorloth quand même et Alvarez. Ça propose quand même.
Moi, je trouve que c'est compliqué.
C'est plus une équipe de transition. C'est pas une équipe qui pose le jeu.
Je pense que Lille
qui
peut faire quelque chose. Après, c'est vrai que Lille est à l'extérieur et tout.
Ça peut pourrir le match à l'expérience, etc. L'Atlético, c'est dur à aller gagner là-bas.
En plus, avec la raclée qu'ils viennent de prendre 4-0, ils sont obligés de gagner contre Lille. Ils sont obligés.
Il y a pas mal d'équipes dites favorites qui sont un peu dos au mur là, sur cette troisième journée.
Dos au mur, c'est grandi parce qu'on est juste à la troisième journée et on sait que 9 points suffit pour être dans les 24 derniers.
Ça peut aller vite quand même. Hein.
Oui, mais 9 points suffit. 9 points suffit pour être dans les 24.
Il a bien fait souligner. Je pense que ce nouveau format-là ouvre la porte à des petites équipes. Le fait qu'il n'y ait pas de match retour, le fait qu'il y ait plus de matchs. Tu sais, les équipes abordent moins les matchs de poule comme des finales.
Ouais,
à l'époque, quand tu perdais un match de poule, quand tu perds un match, t'avais pas le droit à l'erreur à l'époque, justement. Tu vois, c'était quand tu perds un match de poule, tu perds une grosse option pour la première et la seconde place. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus de droits à l'erreur, il y a plus de matchs, et comme on voit, des grosses équipes se faire surprendre.
Et au contraire, je trouve qu'il y a des grosses équipes qui viennent un peu plus en détente.
Ouais,
du coup.
Ouais.
Par rapport à ces petites équipes qui.
Qui ont un coup à jouer, quoi.
Qui ont un coup à jouer.
Ils se disent qu'ils ont 8 matchs et qu'il y a le temps.
Ouais,
et puis ils ont raison.
Mais ça peut tromper.
T'as 2-3 jokers sur les 8.
Je pense qu'il y a une ou deux équipes qui va se faire surprendre.
Ça peut être trompeur. Parce que même pour les petites équipes, ça peut être un bon format pour eux. Parce que du fait que s'ils arrivent à grappiller quelques points, même à faire quelques petites victoires.
Alors
que les grosses équipes, elles vont arriver en dilettante. Mmh. Et au bout du deuxième match, ils vont commencer à se rendre compte qu'en fait, ils ont fait des erreurs.
Mais les grosses équipes, elles ont aussi l'échappatoire barrage en se disant au pire, on est en 16e parce que je vois pas une grosse équipe finir dans les 8 derniers entre 25 et 32.
Mais le truc aussi, c'est qu'ils finissent en barrage. Mais ils arrivent à se qualifier en barrage. Mais contre qui ils vont se retrouver après?
Real Brest, c'est annoncé.
Ouais, c'est sûr.
C'est ça.
Mais c'est sûr que je pense que les dernières journées de ce format-là,
ça peut être sympa.
Il y aura des grosses déceptions, des grosses désillusions pour peut-être certaines équipes. Mais. On voit Brest, il ne faut plus beaucoup de points pour être au moins
dans les victoire, une victoire, ils sont dans les.
Il reste 6 matchs à jouer.
Et il leur faut Brest,
franchement.
On va enchaîner, excusez-moi, avec FC Barcelone qui vont recevoir le Bayern de Munich. Barcelone qui sont favoris. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je les mettrai pas d'accord, favoris.
Franchement, je suis pas
d'accord. Excusez-moi, attendez, chacun son tour, s'il vous plaît. Ibrahima, on va commencer. Ibrahima, vas-y.
Non, moi, personnellement, je suis du même avis que mes collègues. Je les mets pas favoris, moi, le FC Barcelone. Je pense que là, pour le coup, les deux équipes se valent. On a deux serial buteurs de chaque côté, Harry Kane, Lewandowski. Ouais, cette année, je trouve que les équipes se valent. Après, ça va se jouer peut-être au niveau des ailiers, je pense. Je pencherai plus pour les ailiers du Bayern, quand même. Même si j'aime beaucoup Yamal, je trouve que...
Michael Olise, Niabri,
Coman, Sané...
Moussiala qui revient, Sané qui est très mauvais, mais ouais.
Oh, il est horrible en ce moment, mais il peut quand même, sur un match, se réveiller. Donc, ouais, quand même, je dirais que les deux équipes se valent quand même, mais je penche un petit peu quand même. Je pense que le Bayern va s'imposer.
Ok. Kevin?
Je rejoins ce qu'il a dit le collègue, c'est des équipes qui se valent et deux équipes qui se ressemblent, qui ont un gros potentiel offensif et qui ont pour point faible la défense. Après, le Barça a un autre point faible, c'est le gardien en plus de la défense. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué. Barça favori, c'est lourd à porter, je pense.
En tout cas, c'est ce qu'ils ont présenté. C'est Barcelone. Bon, maintenant, l'écart se réduit, je vois que l'écart se réduit, mais Barcelone...
Bah après, ils sont à domicile, ils ont quand même une revanche à prendre. Avoir
4 revanches à prendre de suite. 4-5.
Surtout celle du 8-2.
Surtout celle du 8-2. Je pense qu'ils pourront plus jamais la reprendre.
Non. Mais au moins, ne pas perdre à domicile. C'est déjà bien, tu vois. Ça montre un nouveau départ du Barça. Ouais. On connaît le Barça qui a souffert, qui a eu des époques qui ne ressemblent pas au Barça. Donc là, ça, je trouve que c'est un gros signe de battre le Bayern comme ça. Je trouve
et
que
de marquer, hein, parce que sur les 4 derniers matchs, ils n'ont pas réussi à marquer un but face au Bayern de Munich quand même.
Ouais, c'est sûr. Mais je ne les, les vois pas favoris, mais je ne les vois pas non plus. Ce sera un match serré pour moi.
Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Moi, je pense que le Barça est quand même plus sûr de ses capacités que le Bayern. Je trouve que le début de saison du Bayern, il est un peu... Il est un peu surfait, ou du moins l'image qui est renvoyée, elle est plutôt bonne par rapport à la production. Ils ont mis du temps à se faire à la nouvelle méthode compagnie, etc. Ils ont perdu à Aston Villa, dernier match de Ligue des Champions. Là, ils ont mis une tôle en Bundesliga, mais ils restaient sur 2 matchs nuls contre Leverkusen, contre Francfort. Ils en prennent 3 contre Francfort. Donc, c'est Francfort, ça marche bien avec Marmouche, avec Ekitike, mais bon, c'est pas non plus l'équipe du siècle. Donc pour moi, le Barça a un coup à jouer. Et le Bayern, il ne faudrait pas les voir trop beaux sur le nom et sur les quelques gros joueurs qu'il y a, évidemment. Mais derrière, c'est aussi moins bien. Upamecano, Kim Ming-jae, je ne suis pas un grand fan. Neuer, ce n'est plus le Neuer d'il y a quelques années. Donc je suis assez d'accord, moi, avec les bookmakers qui mettent le Barça favori.
Ok, merci pour ces analyses de Ligue des Champions. Et on va se faire une petite pause avant d'attaquer la première ligue, hein, avec un choc au sommet entre Liverpool et Chelsea, hein, et Manchester City. On va voir les résultats de chacun. Une petite pause et on revient.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission, on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
Bonsoir encore à ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'émission Au bout du foot. On va enchaîner avec la première ligue. Hein, la première ligue, Liverpool qui ont battu Chelsea à Anfield, hein, 2-1. Un match assez plaisant quand même. Maîtrisé quand même d'une part avec beaucoup de situations litigieuses. Ibrahima, je te vois soupirer.
Il n'y a pas pénalty, mais bon. Il n'y a pas pénalty.
Sur Jones, Curtis Jones.
La faute de Colwill, c'est ça? Non, il n'y a pas pénalty.
Non, mais il y a une faute de Jones.
Le pénalty sifflé, excuse-moi.
Le pénalty sifflé contre Chelsea, je pense qu'il n'y a pas faute. Enfin, le contact est hyper léger.
Il y a un contact au niveau des pieds.
Il y a eu un pénalty.
Au niveau des pieds, il n'y a rien.
Non, il y a eu un pénalty qui a été refusé.
Oui, un pénalty qui a été refusé aussi.
C'est ça. Il ne faut pas oublier aussi, il y a un pénalty pour Chelsea sur la faute de je ne sais plus c'est qui, sur Sancho. Ce qui lui écrase le pied, c'est Alexander Arnold.
Oui, mais ça en Angleterre, c'est pas sifflé parce que la balle est déjà partie depuis un certain moment. Tu sais,
je suis pas d'accord avec ce genre de phrase. Bon.
Non,
c'est ce qui est. Non, mais
c'est pas sifflé. Bah, ici, c'est pas sifflé dans l'autre sens.
Non, dans l'autre sens, c'est pas la même chose.
Non,
c'est pas le même contexte. Si tu reprends les deux actions, c'est pas le même contexte.
Pour ma part, c'est un penalty.
Moi, je trouve que.
Attends, Ibrahim, vas-y, dis-nous toi.
Selon moi, l'action de la faute, le penalty sifflé contre Chelsea, pour moi, Colwill, il y a rien de grave. Si vous regardez bien, même, vous le voyez, il est en train de célébrer le fait qu'il ait dégagé le ballon. Et d'un coup, l'arbitre, il se met à siffler, il est étonné, en fait. Il n'y a pas faute, il faut arrêter. Je ne vois pas où le contact franc, où il lui met un tampon, un truc, rien, quoi. Après. Il essaie juste de ne pas prendre de but, c'est tout. Okay.
Bah, en tout cas, faudra revoir l'action.
Je trouvais ça bizarre, franchement.
D'accord, faudra revoir l'action. On ne va pas rentrer dans le débat de est-ce qu'il y a pénalty, est-ce qu'il n'y a pas pénalty. Mais voilà, ce qui est factuel, c'est que Liverpool sont imposés face à Chelsea 2-1.
Oh.
Qu'est-ce que t'en penses en général du match?
Ah bah, match solide de Liverpool. Hein. Liverpool, ils ont montré tout au long du match qu'ils étaient supérieurs à Chelsea. Après moi, Chelsea, j'ai un gros problème avec cette équipe en fait. C'est qu'à chaque match, je sais pas qui va jouer déjà pour commencer. Il y a au moins 70 joueurs sous contrat. Je comprends pas pourquoi Nkunku se contente de jouer les matchs de Conference League. Il y a Sancho qui fait une première mi-temps horrible un peu, mais il sort à la mi-temps. Enfin, il y a des joueurs qui rentrent, je les ai jamais vus. J'ai l'impression, je sais pas en fait. Je sais pas cette équipe. Je sais pas où ça va. La seule certitude que j'ai, limite, c'est le gardien en fait finalement, parce que sinon
Palmer.
Même Palmer, il a pas été bon hier, mais oui, c'est une des certitudes. Ouais. Je sais pas pourquoi Jackson, il joue tous les matchs comme
il
ça.
Marque, il marque,
il a marqué,
performe.
Franchement, il marque.
De vous à moi, c'est un grand attaquant lui.
Non, ouais, mais il marque.
Il marque.
Franchement,
en fait, je trouve qu'on
marque. Attendez, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Vous allez lui répondre, mais calme, Samba, calme.
Non. Vas-y. Mais il marque des buts, même en sélection, je le trouve horrible sur le terrain, moi, personnellement.
L'Afrique, c'est compliqué.
Bah, c'est compliqué pour Mané aussi, il marque, hein. Bref. Mais après, je sais pas comment il joue à Chelsea, ce mec. Franchement, va falloir qu'on se renseigne, mais je trouve ça grave, quoi. Il fait un contrôle, il le rate, les contrôles sont longs, je sais pas, même avec ses courses, il va vite en plus, mais avec ses courses, je sais pas où il va, il hors jeu une action sur deux, je sais pas comment Palmer fait pour jouer avec lui, c'est compliqué, hein, franchement. Mais bon, après, il a l'air de marquer des buts, donc... et surtout, il a la confiance de l'entraîneur, donc jusque-là, pour un joueur, ça compte beaucoup, donc ouais, mais après, non, sinon, cette équipe de Chelsea, je sais pas où donner de la tête, et je les vois quand même finir dans le top 10, parce qu'il y a quand même du talent dans cette équipe.
Mais... pas dans le top 6.
Top 6. Non, Aston Villa, je pense qu'ils sont meilleurs qu'eux.
Donc toi, tu mets qui? Aston Villa, Liverpool,
Liverpool, City, Arsenal, Liverpool. Et après. Ouais, je sais même pas, j'allais dire United, mais non.
Tottenham.
Tottenham, ils sont en dessous.
Moi, je pense que Chelsea, cette année, ils font une bonne.
Dans le meilleur des cas, ils peuvent finir 6e.
En plus, ils ont que ça à jouer. Enfin, ils ont une Conference League, mais bon, il fait beaucoup
de choses. Ils ont tellement de joueurs, de toute façon. Ouais. Il y a 3 équipes. Hein.
Ouais. Et toi, Samba, très rapidement, dis-nous ce que tu penses du match de Liverpool-Chelsea.
Bon, après, Liverpool, ils étaient favoris. Après, Liverpool, ils ont été largement plus dangereux que Chelsea. Ils ont su concrétiser leurs occasions. Après, juste rapidement, pour en revenir, Brahima, je trouve que tu es sévère avec Nicolas Jackson. C'est vrai qu'il n'a pas des qualités extraordinaires, contrairement à d'anciens attaquants de Chelsea, mais il fait le boulot. Après, je vois pas, tu mettrais qui dans l'effectif de Chelsea à la place de Nicolas Jackson?
Justement, c'est ça qui m'inquiète dans cette équipe.
Mais il marque, c'est le meilleur buteur de Chelsea.
C'est un 9,5.
C'est le meilleur buteur de Chelsea.
Moi, je trouve que...
Vas-y, Kevin, vas-y, finis.
Et juste, dernier mot, parce que honnêtement, j'ai regardé le match, franchement, Sancho... il n'a pas fait une performance extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu en penses de Madueke, de l'autre côté?
Ah non, mais lui, je ne l'ai même pas vu.
Parce que, après, c'est
pourtant,
vrai que...
il était bon ces derniers temps. Ouais. Et lui, pour le coup, je trouve qu'il a vraiment, il est vraiment, c'est vraiment un bon joueur. Mais
après, il a fait quelques changements. Quand Pedro Neto il est rentré à la place de Sancho, il a été largement plus dangereux. Mais ils n'ont pas su gagner le match.
Merci, Samba. Kevin, vas-y.
Moi, je trouve que le collègue, il est dur avec Nicolas Jackson. C'est... Watkins, il a 5 buts, c'est extraordinaire. Nicolas Jackson, il a 5 buts, c'est nul. Donc, je trouve qu'en fait, on a une facilité à lui mettre des joueurs dans une case. De comme l'année dernière, il a été mauvais, bah, il ne peut pas être bon cette année. Il faut reconnaître, je ne suis pas fan de ce joueur, mais il faut reconnaître qu'il fait un bon début de saison. Ou au moins, un début de saison correct. Mais il est pas mauvais. On voit que sa qualité première, ce n'est pas la technique, mais il y a eu des attaquants comme ça qui n'ont pas comme qualité première la technique et qui ont performé. On voit qu'Osimhen, il ne fait pas des contrôles hyper propres. Il n'a pas une conduite de balle hyper huilée, mais dans son registre, il est hyper fort.
Bah, ce qui me dérange, moi, c'est qu'avec un joueur comme Jackson, vous êtes très indulgent, mais Kolo Muani, vous ne pouvez pas le voir. Donc, c'est là où j'ai du mal, quand même.
Non, 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 marque pas notre débat. Moi, je n'ai pas dit Kolo Muani.
Il a la confiance du coach, alors qu'il y en a un autre, on le sort au bout de 45 minutes.
Non, non, non. Déjà, ce n'est pas le même championnat.
Il joue 10 minutes contre Nice.
Non, ce n'est pas pareil. Déjà, ce n'est pas le même championnat.
La Ligue 1, ce n'est pas simple non plus.
C'est pas comme la Première Ligue, ça n'a rien à voir.
Ça va moins vite.
Il y a 3 mondes d'écart. Mais en tout cas,
je sais pas, c'est pas si simple que ça la Ligue 1. Je pense
qu'il y a pas 3 mondes d'écart, voire 5, voire 6.
C'est pas le débat, c'est pas le débat.
Non mais regarde, non mais 3 mondes Liverpool, il marque.
Attendez, excusez-moi.
Il joue contre Liverpool. Oui, il joue pas contre le Havre.
Oui.
C'est pas pareil. on peut pas sous-estimer, on peut pas comparer les adversaires contre lesquels ils jouent. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Nicolas, moi j'ai pas dit que Colomoini était nul tout à l'heure, hein. Mais je veux dire que Nicolas Jackson
était nul. Hein. Je le trouve pas bon.
Attendez, excusez-moi. Le temps défile, il nous reste très peu de temps, il nous reste encore un sujet à traiter. Très rapidement, s'il te plaît, Kevin, est-ce que tu peux clôturer?
Moi, je trouve que Chelsea peut arriver dans ce top 6, mais ce sera pas simple parce qu'il y a des grosses équipes, il y a Tottenham, il y a Brighton, il y a Aston Villa. Ça va être compliqué, mais ils peuvent et ils ont les capacités pour. Et même si là, ils ont perdu contre une grosse, grosse écurie de Premier League, je pense qu'ils vont quand même prendre beaucoup de points cette année.
Merci, Kevin. Maxence, pour ramener toute cette sérénité autour de la table, s'il te plaît.
Exactement, pour ramener de la sérénité, je ne vais pas parler de Chelsea, je vais parler de Liverpool. Oui. Du coup, Liverpool, contrairement à ce qu'on pensait avant que la saison démarre, la succession de Klopp, etc., il confirme que ça va être un candidat au titre jusqu'au bout pour moi. Avec en plus le faux pas d'Arsenal sur le même week-end, il reste tout là-haut en tête de Premier League. Et pour moi, ils vont être durs à aller chercher. On voit que l'effectif, il est hyper complet. Encore là, ce week-end, ils se permettent de faire rentrer des mecs comme Luis Diaz, comme Darwin Núñez, comme McAllister. C'est très, très, très costaud comme effectif. Avec, il y a du Cody Gakpo, il y a du Szoboszlai, il y a du Diogo Jota. Voilà, pour moi, c'est très complet. Et pour moi, ils vont être durs à bousculer. Et aujourd'hui, c'est mes favoris pour le titre en PL.
Manchester City, qui sont d'ailleurs arrachés pour la victoire sur une décision aussi un peu litigieuse. On ne va pas trop y revenir. Il y a but, il n'y a pas but. Il fait action de jeu, il ne fait pas action de jeu. Il gêne le gardien, il ne gêne pas le gardien. Bernardo Silva, oui ou non? Il est hors jeu, ça c'est sûr. Est-ce qu'il gêne le gardien? Oui et non. Le but a été quand même accepté. Et Manchester City ont arraché la victoire. Mais c'est un Manchester City poussif. Voilà, c'est plus un Manchester City encore avec les armes qui déroulent, qui marchent sur son adversaire. Ils n'ont pas eu d'occasion folle durant tout le match. Hein. Ils n'ont eu que deux vraiment occasions où ils les ont mis au fond, on va dire, plus ou moins. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Oui, il y a de la maîtrise technique, comme d'habitude, comme toutes les équipes de Guardiola. Mais depuis la perte de Rodri notamment, on sent que ça manque de liant. Et pour moi, ça va être long parce que là, on voit que les matchs, ils les gagnent à l'arrache de l'arrache tous les week-ends. Avec, là, on compte sur des frappes de Guardiola de 35 mètres, mauvais pied. Bon, ça n'arrivera pas tous les week-ends. Ça arrive souvent. Guardiola, mais bon,
il marque souvent. Buts, hein.
Mais bon, quand on est réduit à ça quand même, c'est pas hyper bon signe collectivement.
C'est vrai.
Et pour moi, ils sont beaucoup moins dominants qu'ils l'étaient, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Donc je mettrai une petite alerte sur City cette saison. Enfin, pas une alerte pour finir loin, hein, mais pour le titre, à mon avis, c'est pas gagné comme ils ont gagné les quatre derniers, il me semble.
Merci, Maxence. Pour Manchester City, très rapidement.
Non,
personne.
Grealish, toujours aussi mauvais, je trouve.
Ouais.
Tout ce que j'ai à dire.
Fraude.
Hein, c'est, ouais, non, non, on peut parler de fraude pour le coup. Je sais pas ce qu'il apporte.
Il fait la fête encore, je pense. Enfin là, il fait plus la fête.
C'est typique.
C'est un peu comme
typique.
Un Ronaldinho. Je pense que c'est un peu comme un Ronaldinho. Il fait plus la fête, du coup,
non.
Il est plus très heureux.
Non.
Et il a du mal.
C'est typique le joueur
ça
du système.
Ça fait mal dans la même phrase.
Le joueur du système qui n'a aucune créativité. C'est le joueur du système.
Merci. Il sait que fixer et remettre en arrière.
C'est ce que j'aime pas dans le football actuel.
Ouais, c'est horrible.
Et Manchester City, par contre, je les vois quand même aller au bout de cette première ligue. C'est que même quand c'est en dessous, ça reste au-dessus.
Ouais, mais il manque Rodri.
Ouais.
Rodri, après, c'est vrai que la perte de Rodri et De Bruyne. Fatal. Parce qu'il y a Rodri, il y a De Bruyne aussi qui n'est pas là.
De Bruyne, hein, qui ne sert plus à Londres. Londres qui ne marque plus dernièrement.
Après, De Bruyne, moi j'ai l'impression que Rodri, en fait, c'est la pièce maîtresse de l'effectif de City. Il a pris vraiment de l'ampleur. C'est-à-dire qu'on sait que De Bruyne, il est sur la fin.
Avec Rodri titulaire, c'est une seule défaite. Hein, en 4-5 ans, je pense. Et sans Rodri, c'est 3 défaites.
Et aussi,
3-4 défaites en autant de matchs. Quoi.
Aussi, il faut soulever un point. Manchester City, en ce moment, je trouve qu'ils sont un peu aidés par l'arbitrage. Ouais. Parce que contre le choc contre Arsenal, l'exclusion de Trossard, je trouve que c'est scandaleux.
Ouais, scandaleux.
Et puis l'affaire Bernardo Silva aussi. Ouais.
Ça me fait penser un petit peu au Real Madrid en Liga, tu vois.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Des supporters des Gunners et du FC Barcelone qui, à chaque fois, rappellent et parlent du Real Madrid.
Neutre, moi.
Voilà, ok. On va se faire une petite virgule, voilà, pour respirer vraiment, pour, voilà, et ensuite on va attaquer le sujet du Ballon d'Or. Ballon d'Or 2024. Qui sont vos favoris ou qui est le favori selon vous et qui va remporter le sacre la semaine prochaine? On sera en émission hein, quand on verra directement le sacre. On rappelle que maintenant, le joueur qui gagne le sacre n'est plus prévenu en avance, hein, ouais, et le découvre comme tout le monde, avec tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, Maxence ?
J'ai le droit de dire déjà que le Ballon d'Or, ça m'intéresse pas trop.
Oui.
Moi, personnellement, je suis pas fan du Ballon d'Or. Autant, il y a certaines années, on me dit, je sais pas, un mec qui porte une équipe sur ses épaules, qui va gagner une Coupe du Monde, qui va gagner une Ligue des Champions un peu tout seul. Ok, on s'en souvient, ça remonte dans notre tête. On se dit, ok, cette année-là, c'était l'année de machin, c'était l'année de Zizou, c'était l'année de Ronaldo, c'était l'année de Messi. Mais là, une année comme ça... Bon, on sait que ça va être Vinicius, voilà, avec le Real, il a gagné avec des champions, etc. Mais pour moi, ce n'est pas une année où il surnage. On a connu des mecs qui surnageaient sur la saison. Vinicius, il n'a pas surnagé pour moi. Avec sa sélection, ce n'était pas exceptionnel.
C'était même mauvais.
Il a fait des très bons matchs en Ligue des Champions, etc. Et là, il a fait le doublé avec le Real, Ligue des Champions, Liga, voilà, rien à dire. Mais pour moi, que ce soit lui, que ce soit Bellingham, que ce soit Carvajal, il n'y a pas de scandale et il n'y a pas non plus de... Ouais. De favoris qui se détachent. Donc, ça sera lui parce que voilà, on le sait. Mais moi, je suis pas forcément hypé par ce trophée-là. Je suis pas emballé.
Merci, Maxence. Kevin ?
Je suis d'accord avec lui. Je trouve que ces ballons d'or montrent un signe comme quoi le football a vraiment baissé en niveau, en termes d'individualité. C'est qu'un joueur comme Di Maria à l'époque, on n'aurait jamais pu prétendre au ballon d'or. Alors qu'un Di Maria aujourd'hui, ou même un Dybala à la Juve qui portait son équipe, on le met dans le foot actuel, il peut le remporter normalement, le Ballon d'Or. Mais après, c'est vrai que Vinicius, moi, il a porté son équipe.
Moi, je vous trouve très, très dur quand même avec Vinicius.
J'allais en parler. Moi, je trouve que Vinicius a fait des gros, gros matchs en Ligue des Champions. On le voit contre un Bayern Munich, on le voit contre Dortmund. Je trouve que aller-retour contre le Bayern Munich, je trouve qu'il a fait une grosse campagne, et surtout en phase finale de Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas plus fort dans le foot, ou il n'y a pas plus accompli en termes de trophées et performances. Donc, tu es obligé de lui donner. Mais après, oui, à l'échelle de l'histoire, c'est pas un grand ballon d'or. D'accord. Mais à l'échelle du foot actuel, il mérite.
D'accord. Et le ballon d'or de l'année dernière, pour vous, c'est un grand ballon d'or ?
Celui de Messi ?
Oui.
Non plus.
Merci Maxence. Non, mais... on va passer
la Coupe
à
du Monde.
Ibrahima, vous, s'il te plaît. Non mais c'est bon, il a répondu, c'était le premier qui répond. Non. Merci. Ibrahima, s'il te plaît.
Bah, toi, qu'est-ce que tu penses ? Je suis du même avis que Maxence, moi, en fait. Peu à peu, je perds pas mal d'intérêt pour cette cérémonie. Et c'est surtout depuis que Messi et Ronaldo ne sont plus trop concernés. Enfin, Messi était concerné encore l'année dernière. Ouais, mais, voilà.
Là.
Mais je pense que les deux, ils ont mis la barre tellement haute, en fait. Ouais. Aujourd'hui... C'est compliqué pour les joueurs. Hein. Et puis avec, comme l'a dit Kevin, le football, on voit qu'individuellement, il y a quand même une certaine baisse. Je pense pas que les joueurs soient devenus plus nuls du jour au lendemain, hein, mais on sent que le côté tactique a pris beaucoup trop d'importance. On laisse moins les joueurs s'exprimer sur le terrain. On voit une équipe comme City, on dirait des robots limite. Chacun sait ce qu'il doit faire sur le terrain à tel moment, sur telle action. Tout est millimétré, donc ça laisse moins le temps aux joueurs, moins la possibilité aux joueurs de s'exprimer. Mais oui, sinon, après, de façon objective, je pense que Vinicius va gagner. C'est mérité.
Il mérite.
Tout comme si Bellingham l'avait gagné, je pense que ça aurait été mérité aussi. Donc, voilà.
Merci, Brahima. Samba ?
Ouais. Donc, pour ma part, objectivement, pour ma part, hein, mon avis, c'est Carvajal, comme ça a été évoqué en off. Après, en gros, en favori.
Ton favori, c'est Carvajal.
Ouais, mais après, c'est Vinicius qui va gagner.
Mais ton favori, c'est...
Ouais, voilà.
C'est
après, quand j'entends des arguments sur Bellingham, pour moi, Bellingham l'a fait 6 mois et je trouve que 6 mois, c'est trop juste. C'est trop juste pour prétendre au Ballon d'Or. Après, moi, en ce qui concerne l'émission du Ballon d'Or, j'ai arrêté depuis que... Ça me fait mal de le dire, hein. Franchement, ça me fait mal de le dire. Depuis que Messi a gagné devant Haaland et devant Lewandowski. Ouais, parce qu'il y a bien des éditions où Lewandowski devait gagner et Haaland devait gagner.
Ouais.
Pourtant, j'aime beaucoup Messi, hein. Mais je trouve qu'il a été favorisé. Honnêtement, il a été favorisé. Et Ronaldo aussi, je veux pas oublier Ronaldo aussi. Ronaldo aussi, il a bien gagné des ballons d'or que d'autres joueurs auraient pu gagner
Iniesta,
à sa place.
Ouais, Iniesta ?
Non, 2013 Ribéry.
Ah non, Iniesta, c'était Messi, c'est vrai, excuse-moi. Ouais.
2013 Ribéry.
Ouais,
donc pour ma part, après, si vraiment...
Mais après, pour moi, si on revient, c'est à peu près... Bah, Ribéry, si on prend les stats de Ribéry... Et les stats de Vinicius maintenant.
On tatoue et lâche de ce qui est en train de
faire.
On tatoue et lâche de ce qui est en train de faire. Je te vois venir à des kilomètres.
Attendez, je te vois venir. Laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît.
Je te vois venir.
à partir du moment où vous parlez de stats, etc., si on va sur les stats, moi, je peux vous sortir des stats où il y a des favoris de Ballon d'Or, parce qu'attends, à ce moment-là...
Il n'y a pas que les
stats. Oui, il n'y a pas que les stats.
Mais Zizou, il prend le Ballon d'Or en 98, tu dois mettre 15 buts dans les
mêmes. Ouais, mais Eladj, Eladj.
Le problème, c'est quoi? C'est Ribéry.
Si tu te bases sur les facteurs stats, Vinicius, il gagne pas. Maintenant, à part les stats...
Les trophées.
Les trophées.
La grosse saison avec le Bayern.
Carvajal, il gagne tout.
Et puis l'impact visuel aussi. Enfin, je suis désolé, le Ballon d'Or, ça doit représenter un truc.
Oui, Carvajal,
pour moi, il a gagné. 2002, tu penses Ronaldo, brésilien, tu sais que voilà, il l'a gagné. Benzema, 2022.
Pour moi, Carvajal, il a un impact visuel.
Je suis pas d'accord.
Après, non, c'est juste que dans le football, en fait, on regarde que les offensifs.
Non, mais moi, je suis pas contre.
Il faut avoir une vision globale. Non, je sais. Non, je sais que t'es d'accord. Mais il faut avoir une vision globale. Mais... Parce que Carvajal, il marque un final.
Non, ah, la fin...
Sur le parcours de l'Espagne, il est solide.
La symbolique, elle est belle. Et puis, on se rappellera 2024 que il gagne avec... l'Espagne gagne l'Euro, etc. Donc, ça aurait du sens.
Ouais, bah. C'est sûr. Mais en fait, Messi et Ronaldo, la rivalité, elle a tellement étouffé les autres joueurs qui étaient en dessous que bah, là, on arrive à l'après de cette ère-là et on se retrouve avec des joueurs en bas. Du coup, on essaie de garder les critères de comparaison qu'on avait pour Messi et Ronaldo. Ouais. Donc comme eux, on n'arrivait pas à les départager, même si on sait que l'autre est beaucoup plus fort maintenant, comme on n'arrivait pas à les départager,
qui est 907 buts,
Messi, oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord
comme
avec toi.
Bon, on les départageait avec la Ligue des Champions, avec les trophées, parce qu'ils étaient tellement hauts qu'on les départageait avec ça. Mais maintenant, je trouve qu'on a gardé ça, mais je trouve pas qu'on devrait.
Je suis d'accord avec toi. Mais après, ceux de Lewandowski et Haaland, c'est un scandale. Parce que Lewandowski, ils lui ont donné un petit trophée. Tiens,
moi, je trouve que celui de Lewandowski est pire qu'Haaland, parce qu'il gagne quand même la Coupe du Monde, Messi. Il fait quand même une super
Lewandowski, c'était terrible parce qu'il gagne la Ligue des Champions.
Lewandowski, c'était vraiment dur parce qu'il a pas eu en Ballon d'Or 2020 à cause du Covid. Et il était soulier d'or et tout la saison d'après. Franchement, il était sur une super dynamique. Ouais. Après, Messi, il fait une bonne Copa, mais je trouve que c'était. Mais
après, sur l'histoire de la Coupe du Monde, ça a été discuté dans le sens où, entre guillemets, ils ne savaient pas. Certains ont discuté, ils ont dit sur les années.
On ne va pas s'éterniser sur le reste. Hein. Voilà, en tout cas, vos favoris, c'est Vinicius, on l'a compris. Hein. Vous n'êtes pas très content, mais c'est Vinicius quand même le favori selon vous. On pourrait même avoir trois Madrilins sur le podium, hein, en parlant de pourquoi pas Bellingham, Vinicius et Carvajal. Ouais. En tout cas, la logique devrait suivre entre les trois. Pourquoi pas Rodri qui pourrait s'inviter à la fête
Yamal.
Aussi.
Yamal, ouais.
Il fait un euro de ouf. Hein.
Il fait un
top 10.
En étant top 5,
En club, mais en club, il gagne rien.
Ouais, c'est sûr.
Ouais, top 5.
En club, il gagne rien.
Ouais, mais Vinicius en sélection, il gagne rien.
Rien aussi.
Il gagne la Ligue des Champions et la Liga. Et la Supercoupe.
Oh, la Supercoupe. Si on commence à compter les Supercoupes.
Non, mais en gros, je t'ai dit.
Il a gagné le trophée eSports aussi à Miami au mois de juillet.
Non, pour dire qu'il gagne tout. On va se faire un petit quiz très rapide avec. Jason qui va lancer ça de suite. Combien de buts ont encaissé... Les téléphones sur la table, s'il vous plaît. Combien de buts ont encaissé la lanterne rouge de la Ligue 1 Montpellier en 8 matchs? Combien de buts ont encaissé Montpellier?
23
pour toi et pour toi?
Moi, je mets 19, allez.
24. Et bah le plus proche c'était Maxence et c'était 26 buts. Ils ont encaissé 26 buts en 8 matchs. On va enchaîner. Bah là c'est un peu voilà. Quel joueur a fait de moins bonnes stats en termes de goal assist que Vinicius qui a eu le Ballon d'Or? Quel joueur qui a remporté le Ballon d'Or a fait de moins bonnes stats que
Modric.
Vinicius?
Cannavaro.
Attendez.
Modric.
Ouais, j'ai dit Modric pareil.
Cannavaro.
Je dois en dire un autre obligé ou...
Tu peux.
J'ai dit Modric. Tu peux en dire un autre obligé?
Tu peux, non, vas-y.
Parce que moi, je voulais dire Modric, mais je dois en dire un autre obligé.
Non, vas-y, dis-en un autre, vas-y.
Ouais, je sais pas. Modric ou Cannavaro.
T'en pas.
Tu parles du Ballon d'Or de tout temps ou juste ces dernières
années? Bah, enfin, on va dire ces 20 dernières années.
Ouais, Cannavaro, je pense.
Oui, bon, après, ça compte pas. Mais oui, Cannavaro, mais... Je vais vous rappeler, voilà, bon... Il y a eu Modric, oui, il y a eu ces joueurs-là.
Il y a pas de gardien qui a gagné.
Il y a eu ces joueurs-là, mais je vais vous dire aussi, il y a eu Ronaldinho qui a fait 13 buts et 17 passes décisives en 42 matchs. Kaka qui a fait 48 matchs et 18 buts et 11 passes décisives. Non, pour cette.
Reste au Real.
Voilà.
C'est ça.
À Milan.
Là, c'est Milan.
Après, visuellement, c'était autre chose. Hein. Ronaldinho, Barça 2005, c'était autre chose visuellement que Vinicius 2024.
À là, c'est Milan. Mais c'est pour vous parler un peu de stats. Et on va se faire un dernier vrai ou faux. Est-ce que Neymar a gagné le trophée d'homme du mois en Liga avant Lionel Messi? En Liga, Neymar a remporté
faux.
Le... Faux.
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 Bah, faux.
C'est vrai si tu poses la question.
C'est vrai. Ouais. Eh ben c'est vrai, merci Maxence. C'était vrai, Neymar a remporté le trophée du mois de la Liga avant Lionel Messi en Liga.
Enfin, tu parles quand il arrive au Barça.
Non, de tout, oui. De tout, oui.
Ah franchement, j'aurais dit faux. Hein, parce que l'autre, il a commencé tôt, ça, il a fait des bonnes performances.
Ouais. Ça veut 2012, dire qu'il avait jamais c'est... le trophée du mois.
C'est-à-dire en 2012, c'est ça, exactement.
En 2012-2011, il a jamais le trophée du mois.
Ouais, c'est ça.
Décidément, toutes les instances sont pro-réal. Hein. On peut finir là-dessus.
En tout cas, on va se dire à la semaine prochaine. Merci beaucoup à tout le monde. Ouais. On va se dire à la semaine prochaine pour du débat, du live. Et là, on aura beaucoup de gros chocs. Du coup, soyez prêts et soyez au rendez-vous. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci à Jason, à la Réa et merci à vous tous qui nous écoutez. Bonne soirée.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond. Mon Paris FM.